Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Benoît alias Exerve.
Bonjour alias salut.
Alors messieurs, avant de commencer, je rappelle que Fin du Game va passer en mode vacances pendant le mois de juillet et le mois d'août. Il n'y aura pas deux épisodes comme on a l'habitude de le faire, il y aura un seul épisode pendant... il y aura un épisode chacun de ces mois. On va lever un petit peu le pied, histoire de... De se ressourcer, de prendre le temps, de prendre un peu de recul sur le paysage vidéoludique pour revenir encore plus fort en septembre.
Puis lui laisser le temps de se reposer, réalimenter. Tu vois, il faut que l'énergie du karma,
toutes les deux
à force d'annoncer des trucs, là en plus, c'est la période où ils annoncent plein de choses. Il y a des remakes dans tous les sens.
Un peu brouillon comme avec toutes les annonces. Voilà, on préfère prendre un petit peu de recul, tout ça. Donc voilà, on est désolé, mais nous, ça nous fait du bien. Mais voilà, on sera quand même là. Un épisode, ce sera, je crois, mi-juillet. Et mi-août.
On avait donné des dates sur Discord. Bon, au final, on sait qu'avec nos agendas individuels, ça sera peut-être pas exactement comme ça que ça va se passer. Voilà, en tout cas, il y aura un épisode chaque mois et on se retrouvera à partir de septembre pour la rentrée, la troisième saison.
Voilà, on finit la deuxième saison tranquillou. Ouais. Là, on était avec quand même deux grosses cartes.
Sachant que vu le cliffhanger qu'il y aura à la fin de cet épisode-là, vous allez vous demander tout l'été ce qui va se passer à la nouvelle saison.
T'as déjà prévu la fin?
Non, pas du tout.
C'est bien ce qui me semblait. J'étais pas sûr qu'on se mette au clair là-dessus. Alors, on remercie quand même toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Vous pouvez toujours nous soutenir, même en vacances, c'est possible. Merci de nous permettre de fabriquer cette émission. À la fois l'enregistrement, ce qu'on fait là maintenant, mais aussi toute la préparation qu'on fait, les petites recherches et tout. Donc voilà, c'est pour ça.
La deuxième saison, ça a été un peu l'explosion, hein, parce que le Patreon, il est monté de ouf depuis un an, depuis la rentrée en septembre dernier. Souvenez-vous, à l'époque, loin, les pandémies, les machins, les bidules, c'était un autre monde, le monde d'avant, il paraît.
C'était le monde d'avant, effectivement.
Et ça a bien fonctionné, donc la troisième saison, ça va être l'apothéose, hein, on va faire...
Ouais, ça commence à devenir
82 sérieux. Épisodes sur Hideo Kojima pour Hugo.
Oui. Alors, on remercie également Sœur d'édition, notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas du tout de jeux vidéo en ce moment, hein, vraiment.
Oui, vraiment, il y a eu pas mal d'annonces là. Ils ont sorti pas mal de livres qui vont pas tarder à sortir pendant l'été. On en a surtout retenu un, nous, c'est celui sur Full Metal Alchemist, parce que je crois que tous les trois, on est quand même des plutôt fans du manga.
Et pour l'anecdote, mes livres Full Metal Alchemist sont les anciens livres de Max que je lui ai rachetés. Parce qu'il voulait s'en débarrasser.
Oui, j'ai fait un petit moment de minimalisme où j'ai revendu un peu tous les mangas que j'avais pas prévu de relire. Et voilà, il y a eu une petite injection de Naruto aussi dans Strasbourg.
Sur le bon coin, c'est vrai qu'il était très actif. Ouais, c'est ça, il s'est mis sur le bon coin et du coup, moi, délit d'initié, j'ai pu acheter les Full Metal avant qu'ils partent. J'ai laissé les Naruto partir, ça m'intéressait un petit peu moins. Mais c'est cool, je trouve, de voir ce genre de bouquin qui ressort parce qu'il y avait eu tout un tas d'autres séries sur du manga. Donc voilà, je pense que ça va leur donner. Ça montre aussi qu'à l'avenir, ils ont quand même pas mal de choses à traiter avant d'arriver à court de sujets.
Et comme d'habitude, vous pouvez surtout retrouver ça sur leur Twitter, hein, ils sont très actifs, donc voilà, le Twitter de Sœur d'édition, hop, vous avez toutes les annonces en direct. Et je crois que c'est tout, on a fait le tour, hein, ça y est, le protocole d'introduction est terminé, on va pouvoir commencer à parler de jeux vidéo. On va parler de The Stanley Parable aujourd'hui. Maxime, comme d'habitude, nous a sélectionné une petite musique. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs choix qui ont été proposés par Exerve. Voilà, est-ce que
c'était des vrais choix ou pas?
Voilà, on ne sait pas, c'est la vraie question. On verra quel choix tu finiras par faire, et puis on se retrouve juste après ça.
When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left.
Oh,
donc Stanley Parable, un jeu sorti, je prends le, j'aime bien piquer comme ça les phrases de Hugo, ça me fait toujours beaucoup rigoler. C'est sorti le 17 octobre 2013 dans la forme qu'on le connaît, mais en fait quand on a commencé à s'intéresser un petit peu à ce projet-là, on s'est rendu compte qu'en réalité le jeu était sorti bien avant sous forme d'un mode de Half-Life 2, c'était sorti en 2011 mon cher Maxime.
Et oui, Stanley Parable, donc sorti en 2011, c'est un mode de Half-Life 2 créé par Davey Redden, donc on va faire sa petite biographie très, très rapidement, mais on va commencer de ce 18-19 ans.
Oui, on va laisser ça. Ni en Poitou-Charente, alors peut-être pas en Poitou-Charente. Alors,
c'est un American.
C'est un American.
Et donc lui, il a pas mal joué aux jeux vidéo, mais il se rend compte que lui, ce qu'il aime principalement quand même, c'est les histoires. Du coup, il a fait des études de cinéma. Sauf que pendant ses études, donc il a l'air d'être assez attentif à la communauté des mods. Et vers 2008, il y a le mode de D-Rester qui sort, lui aussi, qui a été remaké ensuite en 2011, je crois,
oui, c'est
qui est sorti
oui.
sur Steam. Il y avait aussi d'actifs, il y avait Robert Young, qui est une personne connue pour faire des jeux un petit peu autour de la culture gay, qui sortait aussi des mods dans cette période-là. On peut citer aussi le studio Tale of Tales, qui avait fait... donc à l'époque, il y avait The Graveyard qui était sorti, donc oui. C'est cette grand-mère qui traverse un cimetière, et il y a toute une narration un petit peu qui raconte des choses sur ça.
Avec le studio Telltale. Hein,
tout à fait.
Oui, souvent, Tale of Tales, c'était des Belges.
C'était vraiment le précurseur hein, des Walking Simulator, enfin vraiment de ce qu'on peut entrevoir aujourd'hui, c'est vrai qu'ils étaient assez en avance hein, là-dessus. Bah, hein.
Après, c'était un studio d'artistes. Hein,
oui, voilà.
Tu sais, il y avait tout le jeu avec le The Forest où tu jouais un cerf et tu pouvais discuter avec d'autres cerfs uniquement. C'était eux aussi. Ouais.
C'était en ligne.
Moi, je me souviens surtout de Sunset,
qui est sorti
pendant la Révolution.
Qui a dû sortir, je dirais, en 2015, mais je suis pas sûr à 100%. Mais eux qui avaient une position très artistique, vraiment qui revendiquaient, bah eux, ils font pas du jeu vidéo, ils font de l'art. Bon, bref.
Ils avaient limite cette posture-là. Enfin, c'était même cette posture-là, oui, c'est vrai.
Et du coup, bah, Davey Redden, il joue un petit peu à ça, et il se rend compte du coup que, bah, en fait, c'est ça qu'il veut faire. Parce que bah, c'est un peu une révélation hein, quand même dans le jeu vidéo, parce qu'on pouvait croire que le jeu vidéo c'était que du gunfight, que de l'action, et en jouant un petit peu à ça, pendant ses études de cinéma, il se dit, bah, en fait, non, je vais pas faire des films, je vais faire ça. Du coup, je sais pas exactement quelle année, j'imagine que c'est entre 2008-2010, il se lance dans le mode Stanley Parable. Il touche un peu donc au moteur source de Half-Life 2 qui était mis à disposition, qui a fait des jeux d'ailleurs, bon là officiel, mais Counter-Strike Source, Day of Defeat Source, etc., mais plein d'autres modes. Lui touche un petit peu à ça, il n'a aucune connaissance vraiment technique, il va se renseigner sur internet, il va reprendre tous les assets aussi qui sont disponibles. Hein. Quand vous jouez au mode Stanley Parable de 2011, c'est que des objets qu'on peut trouver du coup dans Counter-Strike Source, dans Left 4 Dead aussi, donc que des objets comme ça il n'a aucun asset vraiment à créer. Et quand il touche un peu, il se dit, bon, le moteur source, ça sert à quoi ? Ça sert à faire des gunfights et des couloirs. Il s'est dit, du coup, je vais faire des couloirs. Lui, il aimait bien aussi vraiment le concept d'avoir un narrateur, donc une voix off vraiment qui parle par-dessus le jeu. À cette époque, on rappelle qu'il y a Bastion qui est sorti. Il y a aussi D-Rester.
Ouais, D-Rester, du coup, il y avait aussi un narrateur. Hein, s'ouvre vraiment
qui est une grosse inspiration. Il y a Bioshock. Ouais. Et il aime bien aussi le principe que le narrateur ne soit pas fiable, qu'on ne soit pas obligé de le croire, qu'il puisse nous mentir. Je ne vais pas citer de référence parce que ça pourrait être éventuellement.
Mais vous pouvez écouter ce magnifique épisode de Bioshock, évidemment, de podcast Fin du Game. Exactement. Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux.
Salut à toutes et à tous.
C'est Hugo.
Et du coup, quand il touche un petit peu à ça, il a ses idées en tête, il y a une petite illumination qui lui arrive dans son esprit, où vraiment le joueur va arriver face à deux portes. Et là, le narrateur dit, Stanley, ou le joueur prend la porte à gauche, mais en fait, le joueur peut désobéir et prendre la porte à droite. Et c'est le concept, vraiment, c'est le pilier de ce qui va devenir Stanley Parable, donc le mode.
C'est le moment iconique du jeu, et c'est vraiment ce qui cimentera toute la proposition qui en naîtra. C'est vraiment le truc, la base de laquelle il est parti, cette espèce de choix entre une porte à gauche, porte à droite, et c'est de là que tout va partir.
Et de ce qui va en découler, c'est vraiment toute cette histoire, et qui est un petit peu... pas sans queue ni tête, mais qui est un petit peu, comme on disait, pas très fiable. C'est une histoire, lui, il qualifie l'histoire de broken, hein, de cassé, et du coup, voilà, comme il y a ce principe de désobéir à un narrateur, de toute façon, il veut faire une histoire qui est complètement cassée, un petit peu perchée. C'était vraiment son design document, tu vois, lui, il voulait, comme il le dit, mess with the player, donc vraiment... tromper, un peu perturber vraiment le joueur.
Oui, jouer avec nos attentes et créer des ruptures par rapport à nos habitudes de joueur.
Nous déboussoler un petit peu, voilà. Donc ça sort en 2011, comme on l'a dit. Il a son petit diplôme d'études du cinéma quand même. Hein. Donc vraiment, il a environ 22 ans, je crois, quand ça sort, hein, de mémoire. C'est un succès. C'est à peu près 100 000 téléchargements de mémoire en 2 semaines. Hein. Donc son petit effet...
Sachant que c'est un mode gratuit, hein, c'est-à-dire que c'est pas payant. Mmh. Mais forcément, ça participe à pouvoir un petit peu distribuer le jeu très très facilement, qu'il soit facilement accessible comme ça.
Et comme souvent dans ces cas-là, en fait, les gens qui téléchargent ce genre de mode sont aussi actifs sur la scène loading. Probablement des développeurs, et donc forcément c'est des gens qui ont une espèce de rayonnement auprès du grand public, qui a participé je pense à faire connaître The Stanley Parable,
à faire remonter en fait l'expérience jusque dans la presse, etc. Parce que même Kotaku en a parlé, enfin voilà, très vite le jeu a fait parler de lui.
Donc oui, succès, les gens et lui aimeraient bien que ce soit entre guillemets qu'il y ait une vraie sortie,
release,
parce que ça a sa mode Half-Life 2, hein, c'est que comme on l'a dit, des assets de jeux qui existent déjà,
et puis de la musique sous licence, etc. Il y avait pas mal de choses,
oui, et puis même passer par un mode, c'est quelque chose pour une grande partie du public, c'est déjà un acte beaucoup plus complexe que simplement acheter un jeu.
Et donc il y a pas mal de personnes qui veulent collaborer avec lui, hein. Et donc notamment parmi ces personnes-là, il y a William Pugh qui va collaborer. William Pugh qui lui est un level editor qui est connu aussi pour bosser en tout cas avec le moteur Source. Il a sorti des maps de TF2, il est un petit peu connu dans le milieu.
C'est Team Fortress 2, hein, juste pour les gens au cas où. TF2, mais je rappelle juste pour les gens qui n'auraient pas forcément tous les petits acronymes en tête.
Donc il vient un petit peu du même microcosme. Il réalise d'ailleurs un prototype à la demande de Davey Redden. Et en fait, Redden, il dit, ce que William Pugh m'a envoyé, ça ressemble vachement, en fait, en 2011 ou 2012, quand il l'envoie, ça ressemble vachement à ce que Stanley Parable, vraiment, le remake en 2013. Et pour l'anecdote, sur un quiproquo, William Pugh...
Il faudrait qu'on ait un petit jingle, à chaque fois qu'on fait une case du bingo Discord, il faut qu'on y pense.
William Pugh, du coup, monte à bord sur un quiproquo, en fait, parce qu'une fois qu'il avait envoyé le prototype, Davey Redden lui avait dit, ok, je te redis, c'est cool, je te redis dans 1 ou 2 semaines, parce qu'il était en contact avec d'autres personnes, formule de politesse. Et en fait, William Pugh a compris que c'était bon, il était engagé, et Davey Redden a dit, il est allé avec le move,
il a osé lui dire non, alors c'est ça. Il est venu, il s'est installé à la maison.
Ça, William Pugh, il est rentré dans son salon, il a dit bon, on y va, il a posé son ordi, il a fait ok.
Et qui avait déjà quand même une petite carrière, hein, comme tu le disais, qui avait déjà eu même des récompenses, hein, c'est ça, dans la communauté Team Fortress 2, qui avait déjà eu des sphères des modes.
Donc au final, ces deux-là, c'est vraiment le noyau dur de Stanley Parable, hein, c'est eux qui interviennent le plus souvent. Encore une fois, il y a toujours des conférences à la GDC, il y en a une notamment sur la partie narration pure et le côté humour qui est développé par William Pugh, qu'on vous invite à regarder. Ils sont quand même aidés, hein, au fur et à mesure du dev, par plusieurs personnes. Au final, c'est noté qu'ils sont environ 5, hein. Il y a des personnes qui vont les aider de manière un petit peu ponctuelle, et il y a évidemment un doubleur, on en reparlera plus en détail, qui fait toute la voix du narrateur, qui fait évidemment
qui était
un gros
déjà
part
là
du boulot.
Au mode, c'était déjà cette personne-là, et du coup qui a été réappelée pour faire le jeu au final, parce que ça avait déjà participé beaucoup au succès du mode à l'origine.
Ouais, ils en avaient bien conscience dès le début que c'était un truc super important. Et donc quand The Stanley Parable sort pour de vrai sur Steam, ça marche super bien. Le jeu, en quelques jours, il se vend un peu plus de 100 000 exemplaires. Donc ça, c'est déjà très très cool.
Il tape le million ensuite en un an.
Ouais, et donc on était en 2014, donc c'est il y a 6 ans, je pense, que depuis, entre les bundles, les promos, les machins, le jeu est toujours pas sorti sur console.
Alors tu vois, tu m'as piqué ma partie.
Pardon,
précisé. Non mais je plaisante, mais c'est parce qu'effectivement il est sorti que sur PC, hein. Oui. On s'en est même rendu compte on aurait pu imaginer effectivement qu'il soit sorti sur PS4 ou des trucs comme ça, mais pas du tout, il est vraiment exclusif sur PC aujourd'hui, on ne peut jouer que sur PC.
Et donc il arrivera bientôt sur console. En tout cas, pour revenir à l'épisode de 2013, il a bien fonctionné même au niveau des critiques, puisque du coup le petit score métacritique, c'est 88. C'est quand même très costaud, il y a une cinquantaine de reviews à l'époque, tout le monde en a parlé, hein, très clairement. Et ce qui est assez rigolo, c'est que depuis, là maintenant, ils ont annoncé l'année dernière, donc en 2019, une édition ultra deluxe, qui sera une édition a priori plus. Et la pub, vraiment, je vous invite à la regarder parce qu'elle est hilarante. Et en gros, ils disent The Stanley Parable, un jeu qui a marqué son année, et donc ils montrent plein de récompenses qu'il y a eu cette année-là, les BAFTA, les Game Awards, les machins. Et c'est à chaque fois soit Papers, Please, soit The Last of Us qui ont gagné des prix, parce que le jeu était sorti en frontal.
C'est assez marrant parce qu'il a été nominé de partout, mais il s'est fait rafler par
Pop ou par Naughty Dog, donc il était un peu deg. Et ils disent maintenant, ça y est, il n'y a plus personne en face, on va pouvoir ressortir le jeu, et en plus, le jeu, du coup, va sortir sur console, il va arriver sur Play 4, sur Switch et tout ça. Et la toute petite conclusion de cette pub, en fait, c'est le narrateur qui apprend que The Last of Us 2 sort également à ce moment-là. Et ce qui est absolument, je trouve, tordant et qui là relève vraiment du karma d'un niveau fin du game-esque, hein, il faut bien le dire, c'est que la pub, elle date de 2019, à la période où The Last of Us 2 devait sortir la première fois. Ouais. Les deux jeux ont été retardés. The Last of Us 2, il a été retardé deux fois depuis, et les deux jeux devraient sortir là, parce que The Last of Us, ça sort quelques jours.
Bah, sort vraiment, le jour là où vous écouterez l'épisode.
Ah oui,
si
c'est
vous
oui, c'est vrai.
Si vous écoutez Day One, l'épisode
dans le futur. C'est incroyable. J'ai du mal avec tout ça, moi. Et a priori, l'Ultra Deluxe de Stanley Parable est censé sortir en juillet ou en août. Donc voilà, les deux jeux sont liés par le destin.
Est-ce qu'on n'est pas en train de déclencher quelque chose là
ouais.
à cette
Ça se trouve que nous, en le disant, ouais, ça va peut-être proposer. Oh putain, ça devient trop compliqué là. On va arrêter tout de suite. Je vais vous laisser parler de l'histoire du jeu.
Oui, on va revenir effectivement sur le jeu 2013 parce qu'on ne sait pas encore trop ce que ce sera cette version de luxe, si ce n'est que voilà, au moins ce sera un portage sur les consoles et que ça arrivera partout. Alors, l'histoire de Stanley Parable, elle est assez simple finalement. C'est un employé de bureau qui s'appelle Stanley. Son taf, c'est d'être devant un ordinateur. Il reçoit des données, il y a des données qui passent sur son écran et il doit appuyer sur un bouton en fonction des données qui apparaissent devant lui. Mais le jeu s'ouvre tout de suite, dès qu'on lance le jeu, en fait, il y a une voix qui compte, en fait, hein, un narrateur, quelqu'un qui va conter l'histoire de Stanley et qui nous dit que Stanley, il y a sa porte qui s'ouvre et que finalement, il se rend compte qu'il n'y a plus personne dans son bureau, donc dans toute l'entreprise. On est vraiment dans une ambiance, vraiment, c'est les open space, hein, typiques des grosses boîtes tertiaires comme ça, où voilà, il y a la moquette et chacun, ils ont leur petit box, chacun
ouais,
son petit bureau.
T'entends des petits bruits d'ordinateur, des machins, tu vois, ça sent le café froid.
Chaque bureau, ils ont un petit objet personnel pour dire que voilà, c'est chez moi, j'ai mon petit gobelet avec marqué Best Dad ou un truc comme ça. Ça fait penser un peu à The Office.
Mais ils sont tous numérotés, ils ont tous un numéro d'employeur.
Ils ont tous un numéro. Et du coup, Stanley va partir regarder un petit peu ce qui se passe parce que le narrateur nous dit ce que Stanley se dit, c'est peut-être qu'il a manqué, un mail, un truc.
Il y a une réunion spéciale.
Voilà, il n'est pas au courant. Et du coup, il va essayer d'explorer un petit peu l'entreprise. Sachant qu'il y a déjà ce jeu très vite qui se met en place avec le narrateur, le narrateur nous raconte ce que Stanley a envie de faire, en fait. C'est-à-dire qu'il prévoit ce que Stanley va faire. Et donc, si on suit toujours ce que nous raconte le narrateur, on va passer par l'espèce de meeting room, hein, qui est la salle de réunion. On va passer devant cette espèce de PowerPoint qui est très amusant, où on nous explique comment être un bon employé, comment gérer sa colère. On la met à l'intérieur de soi et surtout, on n'en parle jamais pour bien que ça se passe.
Il y a un petit tableau avec des bullet points, c'est monétise free to play aussi.
Oui, et puis voilà, il y a money, ouais. Machin, il y a des espèces de... Il y a des camemberts, des petits histogrammes, enfin bref, tous les trucs qu'on s'attend à voir dans une meeting room. Il y a personne dans cette meeting room et du coup, le narrateur nous dit Stanley se dit qu'il faut peut-être aller voir son boss. On se dirige donc jusqu'au bureau du patron. Là, encore une fois, le patron n'est pas là, il y a personne, mais la voix nous dit que, au fond du bureau du patron, il y a un espèce de digicode et le code, c'est... Alors, je me souviens plus précisément...
2845.
2845, merci. J'espère que c'est bien ça. Sinon, on se fera corriger sévèrement sur le Discord. Et finalement, forcément, comme le narrateur nous dit, le code Stanley peut rentrer le code, hein, puisqu'on joue Stanley, on rentre le code. Il y a un grand mur du bureau du patron qui s'ouvre. Et là, on rentre dans une espèce de salle remplie d'écrans. Et tous ces écrans semblent être des caméras, en fait, qui surveillent chacun, et chacune peut-être, des employés. Hein. Ils sont tous numérotés. Et on voit, en fait, on a un aperçu dans leur bureau. Donc, on arrive dans une espèce de grande salle comme ça, circulaire, avec plein d'écrans LCD. On comprend pas trop ce qui se passe, hein, si ce n'est que le narrateur nous explique que on est tous surveillés, on est tous contrôlés, etc. Et forcément que Stanley, ça l'enrage un petit peu, hein, de se rendre compte que comme ça, il est surveillé, qu'il est qu'un petit numéro parmi tous ces autres. Et du coup, il continue à s'enfoncer dans la structure de l'entreprise pour arriver... Une espèce de salle, moi, qui me fait beaucoup penser à la dernière salle dans Portal, hein, l'espèce de confrontation avec GLaDOS. Alors, est-ce que c'est spoiler ou pas de dire que...
Techniquement, oui. Au pire, de toute façon, on a la machine à bip désormais avec Max, donc on sait que...
Moi, j'autorise.
J'autorise, et merci, parfait. Voilà. Donc, on rentre dans une espèce de grande salle où on comprend que là, il y a des gens qui... Enfin, voilà, il y a plein de petits bureaux où on a l'impression que ça contrôle tout. Et on aperçoit une espèce de porte où il y a marqué en gros que c'est la source d'alimentation de tout ce système. Et du coup, Stanley Stanley voit ça, le narrateur dit que Stanley voit ça, et du coup, ils y vont, et le narrateur nous explique qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour enfin arrêter cette espèce de grande machination. On appuie sur le bouton, et il y a une espèce de mur comme ça qui s'ouvre sur une espèce de prairie comme ça, très bucolique, et le narrateur nous dit que ça y est, enfin, Stanley se libère, il se libère de cette grande machine qui est son entreprise, il se libère des ordres qu'on lui donne, ça y est, il n'a plus besoin d'obéir, et il peut enfin vivre sa vie en tant qu'être libre. Mais bon, déjà une chose, il nous dit que peut-être, s'il avait fait d'autres choix, peut-être qu'il aurait pu voir d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres mystères qui restent encore en suspens dans cette boîte. Et puis surtout, bah, ce qui est amusant, c'est que pour arriver là, bah, on n'a pas obéi effectivement à notre patron, mais on a obéi tout le long au narrateur.
Et puis surtout, en tout et pour tout, ça prend 15-20 minutes grand max.
Ah oui, oui,
c'est
oui,
très court. Hein, chaque petit cycle de Stanley Parable, c'est relativement court. Et donc, bah, l'idée, c'est à la fin de cette première fin, si tu as été voilà, très rationnel, très cartésien, comme Hugo qui a évidemment obéi instantanément. Hugo, il faut le savoir, vous lui donnez des ordres, il vous écoute. Et donc il avait suivi la voix du narrateur, et après ben, en fait, vous pouvez commencer à refaire le jeu un nombre assez grand de fois. Alors il n'y a pas 20 millions de fins, hein, non plus, hein, mais voilà, il y a tout un tas de fins différentes.
19.
Voilà, il y a 19 fins. Alors on a eu tout un long débat sur la préparation pour savoir si certaines fins étaient comptées comme des vraies fins ou pas, etc.
C'est tous les, voilà, les, en a... les moments que vous n'avez pas dans l'émission, c'est ces grands débats extrêmement enrichissants qu'on peut faire pendant la préparation.
Pour nos amis les fact-checkers sur Discord et ailleurs, il y a entre 19 et 22 fins.
Voilà, on va dire 19 ça. Et 3, vous 19, débattrez 3 quarts, de la nature ça. De ces branchements. Voilà.
Parce qu'il y a certains passages qui sont un petit peu drôles, où on peut se dire, est-ce que c'est vraiment une fin, est-ce que c'est pas une fin. Bref, le truc, c'est que effectivement, tout au long de ces différents cycles, on va découvrir qu'il y a tout un tas de fins différentes et qu'on va pouvoir s'amuser à prendre un fois un embranchement, etc.
Alors, en désobéissant en fait au narrateur. Voilà, exactement. Hein, c'est-à-dire que vraiment, le truc iconique dont on parlait au début, le premier choix qu'on a à faire, c'est Stanley arrive devant deux portes et Stanley prit la porte de gauche. Et c'est à partir de ce moment on peut commencer à désobéir au narrateur, et c'est en fait tout au long du jeu, il y a plusieurs embranchements en fait, hein, c'est vraiment, il se construit comme un arbre, et à chaque fois qu'on désobéit ou qu'on obéit, hein, même au narrateur, une fois qu'on a désobéi une fois, bah, on va rentrer dans plusieurs d'autres embranchements, et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir atteindre les différentes fins du jeu.
Et le narrateur réagit chaque fois qu'on fait un choix. Par exemple, si on prend la porte de droite, il raccroche un peu le wagon en mode mais non, il a décidé de faire un petit détour par le
Stanley voulait, voilà, ouais, voilà, déjà parlé par la zone, l'endroit où on prend le café, parce que voilà, il voulait admirer cette pièce qui est vraiment très 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 belle. Et puis après il se remit en chemin et en fait il essaie de te ramener vers le couloir.
Il trouvre une porte et il y a un petit couloir qui remène
qui
vers
te reboucle vers en direction du boss, mais après il y a encore une autre porte. Enfin, tu peux à plusieurs fois prendre le choix.
On peut toujours continuer à désobéir ou se remettre à obéir, mais parfois des chemins qui nous mèneront en fait à des fins encore différentes.
C'est ça, c'est un moment où tu peux désobéir et prendre une fin et ne faire qu'obéir, mais ça t'emmènera à une autre fin qui est différente de celle où tu obéis tout le temps.
Oui, parce que la grosse particularité du jeu, c'est vraiment que le narrateur, en fait, il a cette capacité à réagir à nos actions et à avoir un commentaire qui est assez pertinent. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fonction de ce qu'on va faire, il va pas forcément dire la même chose. Si on n'a pas obéi ou qu'on n'a pas désobéi au même moment, il va avoir des choses différentes, même si on peut arriver à la même fin. Ce qui fait qu'en gros, on a toujours une espèce de contexte qui nous est donné et on a une relation en fait qui va se créer petit à petit avec le narrateur. Et bah, très clairement en fait c'est lui qui fait une grosse partie du job, hein.
Bah, on joue avec lui, hein, vraiment, il y a très très vite cette relation qui se naît, parce qu'en fait, tu disais que j'étais rationnel et tout, moi c'est plutôt le côté, bon bah je vais d'abord voir ce qui se passe en fait, si j'obéis, et après je sais que, en fait, dès que t'arrives devant ces deux portes, t'es tout de suite tenté, donc tu te poses vraiment la question, je pense que ça dépend vraiment de nos personnalités, de se dire, bah voilà, est-ce que tout de suite, moi je vais commencer à mess up, enfin voilà, bidouiller avec le jeu pour voir comment ça se passe, ou alors tu te dis, bon voilà, je commence déjà, je suis sage, et après je ferai
n'importe quoi.
Exactement.
Et sachant que l'action de désobéir, c'est pas juste il nous a proposé A et B et on choisit B plutôt que A. Parfois il y a l'innovation, vraiment on est comme un rat, tu vois, qui va se faufiler dans un petit endroit. Typiquement il y a un moment où on prend une espèce de plateforme qui se déplace et en fait on peut sauter de la plateforme pour accéder à une espèce de couloir qui était en bas, et là le narrateur il fait mais qu'est-ce que tu fais, tu vois.
Quand on est sur la plateforme, il est en train de parler, il nous raconte un truc, genre ce qu'on est en train de faire, et si on saute au moment il fait mais j'étais en plein milieu d'une phrase et il fait ça, mais alors tu veux vraiment faire ce que tu veux, tu veux pas m'écouter, tu me fais pas confiance, c'est ça. Enfin,
petit accent alsacien sur le narrateur.
C'est vrai, j'ai pas de licence. Et oui, c'est la version française qui sortira sur console, et le narrateur est alsacien.
En narrateur.
Oh yeah, mais qu'est-ce que tu fais?
Je vais pas m'écouter.
C'est le dernier épisode. Hein. on peut se lâcher.
On est fatigué tout ce temps qu'on est.
Non, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que au fur et à mesure, en fait, de nos expérimentations avec ce narrateur, on va apprendre à le connaître un petit peu mieux. Parce que autant Stanley, c'est vraiment une coquille vide, hein, qui est vraiment notre incarnation. On se projette à travers lui. Autant le narrateur, bah, lui, on peut, au fur et à mesure de nos fins, comprendre un petit peu sa personnalité. Déjà, c'est quelqu'un qui aime bien son pouvoir, le pouvoir qu'il a sur nous, le pouvoir d'anticiper. Il a aussi des pouvoirs assez forts, hein. Il peut rebooter le jeu quand il veut, il peut réinitialiser le système, nous renvoyer quelque part, nous enfermer même parfois dans des boucles, hein, avec des espèces de couloirs qui vont se répéter, il y a plusieurs fois il le fait. Et puis, il a déjà cette espèce d'humour un peu, il est très sarcastique, il se moque de nous à de nombreuses reprises, hein. Il aime bien nous titiller un petit peu, et puis il aime bien aussi son autorité, et quand on désobéit comme ça et qu'il s'y attend pas, on sent tout de suite que ça l'agresse, ça le rend un peu nerveux, il est là, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, tu me fais pas confiance, quel est le problème? Et du coup, on rentre dans une relation particulière avec lui, à la fois à travers Stanley, mais c'est vraiment entre, voilà, entre le joueur, la joueuse et ce narrateur.
Il y a des moments où on lui désobéit et il reste vraiment toujours en contrôle, typiquement quand on... la machine qui contrôle tous les employés, quand on lui obéit, qu'on la désactive avant d'aller dans le paysage bucolique, on peut réactiver la machine, ouais. Et là il est vraiment en mode bah, GLaDOS, vraiment, où il est tu croyais que c'était si facile que ça, tu vois, et il te met en panique, en fait il a encore complètement le contrôle, et comme tu l'as dit, il y a d'autres moments où on l'a déstabilisé en fait, et du coup il se met à paniquer, il se met à perdre patience, enfin il y a quand même un spectre de réaction qui est assez
c'est ça, parce qu'il
n'est
pas omnipotent, hein, non plus, ouais. Sur le système, c'est pas lui qui décide de tout, et il y a certaines des fins où on verra que ça le mettra un petit peu à mal, où il n'arrivera pas forcément à raccrocher les wagons, ou parfois on arrivera dans des endroits et dit « Mais attends, ça c'était pas prévu, alors attends, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, effectivement, il a ce côté un petit peu... cette espèce d'arrogance de toujours vouloir retomber sur ses pattes, et du coup, bah, ça, on le perçoit très vite, même quand on fait des choix, même juste quand on le débute, genre, ah oui, mais il voulait faire ça, et tout, ok, t'inquiète, j'ai compris. Et parfois, il va essayer de prendre des directions complètement différentes quand ça se passe pas du tout comme c'est prévu. Genre, à un moment, tu fais un truc qu'il a pas du tout prévu, et tu sais, il marque « You win » sur l'écran, genre, bravo, t'as gagné, ouais, ouais, c'est bien, en fait, c'était tout à fait prévu, c'est la fin, merci d'avoir joué. Donc, il a cette espèce de personnalité, et c'est vrai que ça fait partie du jeu, quand même, d'aller explorer sa personnalité, de s'accrocher à cette personne-là.
Et du coup, bah, ce qui fait vraiment partie du jeu, hein, le pilier de Stanley, comme on le disait, c'est d'être mis face à des choix et de pouvoir obéir et désobéir. Et du coup, bah, Stanley Parable, c'est quand même un jeu qu'il faut recontextualiser un petit peu, hein, quand il sort, alors que ce soit en 2011 ou en 2013, le choix dans le jeu vidéo, bah, voilà, c'est un marronnier, c'est une promesse aussi dans beaucoup de jeux, on va pouvoir choisir tel embranchement. 2007, je crois, il y a par exemple Witcher 2, hein, où il y a tout un chapitre qui est optionnel. Plein de RPG avant ça, hein. On avait des conséquences à nos choix plus
oui,
ou
bah,
moins.
On parlait quoi, on a pensé
bah,
à
y a
Fable.
Mass Effect, il hein, y a Fable. Voilà. Alors lui, c'est évidemment le truc vraiment très binaire où tu peux être gentil ou méchant. Ouais. Mass Effect où les choix que tu vas faire sont conservés d'un jeu à un autre. Hein. C'était vraiment un des arguments pour te maintenir accroché à cette trilogie avec la conclusion qu'on leur a connue. On le bipera pas, on va pas le spoiler ici, mais ça avait fait beaucoup couler d'encre à l'époque. Il y a tous les jeux Telltale qui commencent à monter. Hein. On avait parlé de The Walking Dead.
Oui, c'est vrai, 2012.
Bah, c'est 2012, donc voilà, c'est entre la sortie du mod et du...
Et avant
du...
ça,
mais de toute façon,
c'est Rain, ça,
c'est vraiment... Oui, voilà, il y avait Heavy Rain. Enfin, de toute façon, le principe du choix dans les narrations, cette idée de donner aux joueurs, aux joueuses un impact sur le monde dans lequel ils évoluent, bah, c'est un peu la grosse promesse des années. Alors, c'est la grosse promesse du jeu vidéo, tout court.
Oui,
parce que c'est
de
même...
base, exactement.
Voilà, c'est pour ça qu'on joue quelque part.
La narration interactive, hein. Comme ça, forcément, elle implique qu'on puisse faire des choix et forcément qu'on ait des conséquences différentes en fonction des embranchements qu'on fait. Bon, ça rejoint même les livres hein, dont on
ouais,
est
ouais.
Le héros. Hein. Il y a un peu cette idée-là hein, de pouvoir vivre sa propre aventure en fonction de.
Et il y a tout
choix.
Un tas du coup de choix. On va faire des choix pour sauver des gens, ne pas sauver des gens, gagner des objets, ne pas gagner des objets, aller à tel endroit plutôt qu'un autre. Tu vois, même dans un Mega Man, on va choisir dans quel ordre on va tuer les boss, etc. Donc ces principes de choix, ils ont toujours été là et c'est vrai que ça fait partie même vraiment de l'ADN quelque part du jeu vidéo. Et donc bah, le jeu en fait, Stanley Parable va choisir un petit peu de remettre en question cette idée-là. De choix, de s'en moquer un petit peu, peut-être de faire descendre un peu du piédestal cette idée de choix, parce que très clairement, à l'époque, comme on le disait, sur le côté marketing, c'était parti très loin. C'est-à-dire que ça faisait partie des buzzwords. Hein. Quelques années plus tard, on allait nous parler d'open world et de battle royale et de free-to-play et de jeux service. Et à un moment donné, c'était les jeux à choix, tu vois, les Fallout, les Skyrim.
Oui,
bah
même choix et open world, hein, c'est des choses qu'on a vraiment, enfin, il y a le mélange, hein, The Witcher 3, c'est ça.
Et
aussi.
Ce qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est l'idée de liberté.
Tout
tu vois,
fait.
Vraiment, dans les jeux vidéo, c'est un peu la promesse, c'est que bah, vous allez être libre. Dès le début, on peut remonter même dans les années 70-80, dès les premiers jeux d'aventure, quand c'était tout des gros pixels dégueulasses sur des Atari, bah, c'était déjà la liberté de choisir d'aller à tel endroit, etc. etc.
Et l'occasion d'exprimer une certaine personnalité aussi. On rappelle la pochette de Fable, hein, on peut être gentil, méchant, et il y a le héros qui a un peu une moitié de visage, je crois, de chaque.
Oui, ou un ange, reflet, peut-être un reflet ouais. Soit un ange, ouais. Soit une espèce de démon bien
ouais,
bien
c'est ultra caricatural. Ouais.
Et avant ça, t'avais des jeux Star Wars où t'allais plutôt un Jedi ou plutôt un Sith en fonction de tes actions. Mais là, Stanley Parable, bah derrière le choix, en fait, il n'y a pas forcément de réponse claire et nette. Hein. Y a plein de fins, comme on l'a dit, et il n'y a pas de bonne fin, il n'y a pas de mauvaise fin, il y a juste plein de fins. Et c'est vrai que quand on termine, entre guillemets, Stanley Parable, bah, on ne sait pas forcément...
C'est peut-être ça, effectivement, la grosse différence avec tous les jeux dont on vient de parler, qui proposent de faire des choix, c'est que souvent, ces choix, c'est des choix alternatifs. C'est-à-dire, soit tu vas suivre un chemin, soit tu vas en suivre un autre. Alors que dans Stanley Parable, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on le vit. On ne se dit pas, c'est une fin qui raconte quelque chose et une fin qui en raconte une autre. C'est plutôt des fins, en fait, qui sont complémentaires. Et le jeu se construit, en fait, toute l'expérience du jeu, ce que le jeu vraiment raconte, le raconte justement en faisant différentes fins et en se nourrissant comme ça de toutes les fins qu'il va pouvoir donner. Et c'est comme ça qu'on explore un peu le thème du jeu, qui est le choix, hein, qui est vraiment ça. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait de manière très minimaliste. C'est-à-dire que Stanley Parable, lui, il se dépouille de toutes les histoires de compas moral, de vouloir gagner des trucs, ou de plus d'XP d'un côté, ou tu vas avoir l'épée maudite de l'autre, ou j'en sais rien. Il se débarrasse de tout ça et il te met simplement face au choix débile, c'est deux portes. Quoi. C'est porte de gauche, porte de droite. Et on vient à une formule très essentielle de ce qu'est le choix. Et surtout, la réflexion qui va en découler, c'est... Bah, voilà, est-ce que ce sont des vrais choix ? Qu'est-ce que ça veut dire que choisir dans un jeu vidéo ?
Et il fait bien comprendre que, comme c'est un jeu qui est assez frontal, hein, par la voix du narrateur ou par vraiment la binarité de beaucoup de choix, que, bah, quel que soit le choix que t'as fait, il y a une conséquence qui est prévue. En fait, tout est prévu. Il y a quand même une fin qui est assez marrante où tu peux essayer de t'échapper. C'est un jeu où tu peux pas sauter, Stanley Parable, ouais. Mais en essayant un peu de te placer, je crois, sur des objets, tu peux un peu te faufiler par une fenêtre. Et tu sors vraiment du jeu, t'es dans un espace complètement blanc, tu vois juste la fenêtre qui flotte dans le vide, et ça marque une petite pause, et là le narrateur il fait « t'as cru que t'avais cassé le jeu, hein ?» Enfin vraiment, tu vois, donc chaque jeu est vraiment, chaque fin, chaque choix ouais. Est vraiment complètement cadré et designé par le jeu.
C'est un truc qu'ils avaient expliqué, tu sais, dans une des deux confs de la GDC, où justement, en fait, Davey, il voulait vraiment essayer de virer la substance, on va dire, pragmatique du choix du jeu vidéo, avec ce côté systémique de « tu vas gagner de l'XP, tu vas gagner un objet », bref, tout ce qu'on vient de dire, et de juste faire un choix pour ça, juste de faire un choix pour le principe de faire un choix. Et du coup, de voir si ça fonctionne quand même et de voir ce qui se passe entre la relation entre le jeu, le designer et les gens qui jouent à ce jeu-là. Et du coup, ce qui permet, on va dire, le liant de tout ça, bah, c'est finalement le narrateur, puisque bah, dès le début, on va avoir cette idée de soit lui désobéir, soit de lui obéir. Et à partir de là, on va commencer en fait à s'amuser, hein, puisque vraiment, la partie ludique de Stanley Parable, c'est pas de courir partout. Il n'y a pas d'action, on peut pas soulever d'objets, on peut éventuellement presser un bouton ici ou là, mais on peut que marcher. Donc en fait, simplement en choisissant d'aller d'un côté ou un autre, on va découvrir ce qui se passe quand on fait tel ou tel choix.
Il y a une partie en fait un peu exploration des choix,
ouais,
justement, où t'explores, voilà, tu dis, bon voilà, j'ai passé ce choix, ok, j'ai vu cet embranchement. Et on comprend très vite qu'on va vouloir aller chercher les différentes fins. Il y en a qui sont assez évidentes, hein, bah déjà dès le début, bah après tu prends la porte de droite et tu dis, bon voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et au fur et à mesure, ça va être de plus, enfin, le challenge en fait, il y en a un, c'est justement de trouver les choix qui sont peut-être les moins évidents, hein, notamment bah, celui si on est sur la plateforme où on saute comme ça, bah, il est peut-être un petit peu moins évident que celui de prendre de gauche à droite. Il y en a un qui est assez compliqué, enfin moi j'y aurais pas forcément pensé, c'est avant de rentrer dans la tête chez le boss, tu, bah, au lieu de, hop, tu commences à rentrer et tu ressors vite avant que les portes se ferment, et là ça va t'emmener encore sur une autre fin. Donc voilà, il y a des espèces de mouvements de choix que tu perds. Enfin, parfois dans le jeu il y a des choix à faire mais tu les vois pas forcément, tu vois pas forcément que c'est un choix, et ensuite si tu commences à titiller un petit peu le jeu, tu peux te rendre compte qu'il y a des choix. Même par exemple le choix d'attendre quelque part, bah c'en est un, et il y a d'ailleurs une des fins qui est, voilà, tu te mets dans un espèce de placard à balai et t'attends pendant super longtemps.
Ça c'est la fameuse fin où on n'est pas sûr, est-ce que c'est une fin, est-ce voilà, que c'est pas une fin.
Oui, parce qu'on peut reprendre après le jeu en fait, c'est ça le délire.
Et ce qui marche très bien, c'est l'idée qu'au fur et à mesure, à chaque fois que tu vas revenir et que tu vas retourner dans cette pièce où il y a le placard à balai, en fait le narrateur va prendre en compte ce qui s'est passé avant et continuer de te parler comme si tu étais toujours le même personnage. Et ça, il y a une espèce de continuité là-dedans, et ça, ça participe beaucoup justement à ce plaisir de la découverte, parce que bah, à chaque fois que tu vas faire une même action, va pas y avoir forcément le même résultat. Ça, c'est assez intéressant, et c'est un truc qui est vraiment très spécifique à Stanley Parable, c'est-à-dire que quand tu vas sauter de la plateforme, il va pas forcément toujours te dire la même chose, par exemple, ou je sais pas, à chaque fois que tu vas prendre la porte de droite au lieu de la porte de gauche, au bout d'un moment, il va dire, et là encore une fois, il m'a toujours pas obéi, alors que la première fois, il disait, ah oui, non, en fait, il s'est juste trompé. Et donc, cette évolution, moi, j'ai trouvé que ça me donnait en fait envie de continuer pour voir jusqu'où ils allaient aller.
Le jeu ne se reboot pas complètement. Ouais, ouais, en fait, y a une espèce de curiosité. Retient un petit peu ce que t'as fait, retient les fins. Il y a même une fin dans laquelle on peut voir le tableau de toutes les fins et tu vois celle que t'as déjà fait. Donc il y a quand même une sauvegarde hein, dans le jeu. Il y a quelque chose qui se sauvegarde et qui reste et qui perdure au fur et à mesure de toutes tes parties. Et le jeu l'intègre dans son discours.
Et en plus, un petit peu d'attaquer frontalement la notion de choix, c'est vrai qu'il y a toute cette surface, toute cette couche où vraiment il se moque, enfin c'est pas qu'il se moque du jeu vidéo, mais il emploie les codes du jeu vidéo pour te faire comprendre un petit peu où t'es. Typiquement, il y a le moment, je sais pas, il te met une troisième porte et il dit bah, viens playtester, vu que tu t'ennuies, vu que visiblement t'as pas envie de m'obéir, viens, tu sais quoi, je vais mettre une troisième porte, tu la prends et là tu dois noter sur 5 étoiles est-ce que cette porte a vraiment participé à mon plaisir dans le jeu. Et je crois que si t'aimes pas, du coup il dit bah vas-y, tu sais quoi, je vais t'emmener dans un autre jeu, et tu entends il bidouille un peu dans quelque chose et tu finis dans Minecraft. Et donc il y a vraiment cet humour.
Tu finis dans Portal aussi.
Cette fin, elle va vraiment très très loin dans la moquerie du jeu vidéo, parce que du coup ça moque, enfin dans la moquerie, dans la recontextualisation de comment on fait les jeux en fait. Parce que déjà il t'envoie dans un endroit où il dit ouais, j'avais pas fini encore ici, mais vas-y, on va voir comment ça se passe. Il y a le côté playtest, hein, parce que les playtests, hein, c'est quand même ça. Hein, on joue au jeu et ensuite on vous donne un gros questionnaire. Et sur ce questionnaire, bah, vous devez noter, vous devez faire un retour, hein, comme vous pouvez le faire, je sais pas, quand il y a quelqu'un qui vous dit hey, t'as pas 5 minutes s'il te plaît pour répondre à une enquête sur les chaudières. Et c'est exactement pareil. Et du coup après oui, il nous envoie dans Minecraft. Enfin, moi c'était trop marrant parce que j'avais les gosses derrière moi et ils me regardaient jouer, ils me disaient mais tu joues à Minecraft, parce que bon, Minecraft pour eux c'est un jeu important, tu vois, ils ont beaucoup joué, et ils s'étonnaient de me voir à jouer à Minecraft. Je fais non, je joue pas à Minecraft. Et après j'atterris dans Portal, il fait mais c'est quoi ton truc, tu fais quoi, tu changes de jeu ou un truc. Et du coup c'est vrai que ça part vraiment dans un délire what the fuck. Et ce qui est bien, c'est que chacune des fins, il y a quand même des fins qui ont des personnalités comme ça très différentes. Il y en a une où il t'envoie voir ta femme comme ça, mais en fait c'est un espèce de mannequin et il se moque de toi, que tu fais tous les jours la même truc. Dans cette fin sur les jeux, il y a cette espèce de fin aussi avec le bébé là qu'on doit empêcher de brûler.
Oui, parce qu'il veut rajouter un enjeu, il veut ajouter un peu d'action, du challenge, drama, tu vois, etc. Et donc tu dois appuyer sur un bouton pour empêcher un bébé d'aller vers des flammes. Et si tu peux d'ailleurs, il te dit ah oui, alors ça, je pense que ça va vraiment changer ton expérience du jeu. Il faut y jouer au moins 4 heures pour que ça ait vraiment un effet. Et évidemment le jeu, si tu passes 4 heures à faire ça, il se passe quelque chose. Alors évidemment personne n'a fait ça sauf les gens sur YouTube. De toute façon pour qu'on aille voir des gens sur YouTube le faire, c'est qu'il y en a qui l'ont fait, mais personnellement voilà, moi je suis allé sur YouTube pour voir à quoi ça correspond.
Et en plus juste les bruits sont insupportables. Il y a le bébé qui pleure. Quand t'appuies sur le bouton, mais c'est un bruit de buzzer énorme, il est immonde ce bruit de buzzer pendant 4 heures.
Il y a un gros travail sur le son de toute façon à ce niveau-là. Il y a tout un tas de petits effets. Moi j'aime beaucoup par exemple quand le narrateur il est perdu, tu sais, tu l'entends qu'il est en train de chercher dans une espèce de bouquin, t'entends plein de pages qui tournent en disant merde, qu'est-ce que je dois faire, où c'est qu'il faut que je regarde. Des fois tu l'entends taper sur son clavier. Enfin du coup il y a c'est vrai que même le travail sonore de toute façon c'est un peu ça qui te fait fonctionner dans le jeu. Mais il y a pas que des pics sur le jeu vidéo. En fait l'idée c'est vraiment de questionner cette idée de choix là en disant aussi souvent à Stanley bon bah ok t'as pris ta liberté, mais est-ce que ça t'a servi à grand chose, est-ce que c'était si important que ça. Tu vois par exemple une des fins où, que tu peux faire assez rapidement, tu obéis tout du long et à la toute dernière fin, au lieu de désactiver la machine, tu la vires ou tu coupes l'alimentation, enfin je sais plus quoi, et là à ce moment là le narrateur vraiment s'énerve, il active plein de boutons partout et toi t'essayes d'appliquer partout, et à la fin en fait il fait péter une bombe nucléaire parce qu'il a décidé que t'allais mourir et il te dit bon il va y avoir une bombe nucléaire dans 40 secondes, quand il reste que 5 secondes il rajoute une minute de chrono pour te faire chier, et à la fin ça explose pour de vrai.
Et les boutons ils sont inutiles, et il y a plein de types de boutons différents. T'as des boutons alors je sais plus si c'est dans, je sais que c'est dans le mode, mais je sais, c'est dans ma tête c'est un peu brouillé, mais il y a des boutons avec des numéros dessus genre 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais, ça c'est dans
il y a des boutons avec des couleurs, tu peux un peu bidouiller des ordinateurs et peut-être tu testes plein de trucs, et il te le dit vraiment en voix off, il dit toi t'es en train d'appuyer sur les boutons comme si ça allait désamorcer le
alors
truc,
que ça sert à rien. Mais de toute façon j'ai fait exprès.
C'est intéressant parce que cette espèce de grande salle, hein, c'est la salle dont je parlais qui ressemble un peu à Portal. C'est qu'en fait, oui, tu vois des boutons numérotés et en fait, t'as ce réflexe de joueur de se dire ah, attends, ça se trouve, à un moment, je vais devoir appuyer dans l'ordre, un truc comme
voilà, moi j'ai joué à des immersifs.
Oui, voilà, t'inquiète, je connais les codes et compagnie. En fait, le jeu s'en, voilà, se moque de choses que tu connais du jeu vidéo. Moi, je pense aussi à la fin où tu dois suivre une flèche jaune. Enfin, ça m'a fait évidemment penser à BioShock, tu vois, où tu suis cette espèce de flèche constamment. En fait, il te dit, bon, je trouve que tu sors un peu trop du chemin. Donc, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle version du jeu avec vraiment une flèche que tu suis tout le temps. Et du coup, tu suis la flèche comme ça. Et après, la flèche, bah, elle te fait faire des tours, elle te fait faire des espèces de blagues comme
la
ça.
La flèche, évidemment, elle va n'importe où, elle va dans les murs, oui, elle va dans les plafonds. À un moment, elle arrive à les pièces.
Elle fait des détours
où
ça n'a aucun sens de faire le détour. Et du coup, tu la suis comme un gland. Et parce que justement, c'est un trope qui existait aussi dans le jeu à ce moment-là, c'est-à-dire la petite flèche qui te dit où aller. Bah, c'est vrai qu'on peut penser aussi à Dead Space. Hein. Je me souviens qu'il y avait vraiment, on t'appuyait sur un bouton et t'avais des petites flèches qui apparaissaient comme ça au sol pour t'emmener à la prochaine destination. Ouais. Et donc, du coup, sachant que voilà, tu fais ça au sein d'un couloir, ça n'a aucun sens que tu sois guidé par une flèche au sein d'un couloir.
Je crois que c'est à peu près à ce moment-là où le narrateur se met aussi un peu à questionner la notion de destination et de voyage. Il dit, hey, tu suis la flèche, et de toute façon, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et après, quand il commence un peu à partir trop, il dit, non, mais de toute façon, voilà, on s'en fout, suis la flèche. Donc ça critique, on peut y voir une petite pique au jeu vidéo, tu vois, où... bah finalement ce qu'il y a au bout des choix, c'est, enfin, on s'en fout un petit peu, tu vois, en tout cas à questionner un petit peu tout ce parcours qu'on a tendance à faire dans le jeu vidéo.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a des petites piques sur le jeu vidéo, mais déjà, et d'une, c'est vrai que c'est assez bienveillant, en fait, hein. C'est pas un jeu qui est là pour nous dire, en fait, tout ce que vous avez fait dans le jeu vidéo jusqu'ici, c'était nul et moi je suis trop un gros cerveau par rapport à vous, vous avez rien compris. C'est pas du tout ce que le jeu veut nous dire. Et puis surtout, en fait, bah, c'est bien fait, c'est-à-dire que c'est un jeu qui, même s'il se moque de ce qu'il fait, il le fait et il le fait bien, c'est-à-dire qu'il utilise bien la notion des choix, et surtout, bah, toutes les différentes fins, bah, elles sont travaillées, en fait, c'est-à-dire que bah, voilà, c'est pas juste une blague genre, ah, t'as choisi un truc et ça bug et hop, c'est terminé et on en fait un autre, un truc comme ça. Non, il va à chaque fois aller explorer quelque chose d'assez bien construit, même quand il s'amuse à se moquer bah, des bugs qu'il y a dans le jeu vidéo. Il y a une fin où c'est tout bugué, les environnements sont sans dessus-dessous, etc., ça ressemble plus à rien, bah ça, il a développé une version buggée, tu vois, quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est buggé pour pouvoir t'en parler, en fait. Et du coup, il y a effectivement vraiment ce côté bah, jusqu'au boutiste de faire un jeu qui est drôle, qui peut être vu comme une blague, mais c'est une blague qui est faite très très sérieusement, en fait. Et effectivement, on en parlait un peu dans la discussion. C'est vrai que là, le fait qu'il y ait William Pugh qui se rajoute, même si à la base il avait déjà son projet, ça a rajouté, enfin, il y a une forme d'humour qui est beaucoup plus concrète dans le truc, mais le fait qu'il soit à deux et qu'il y ait aussi l'expérience qui vienne de William Pugh, ça a pu faire un jeu qui est très solide.
Ouais, Devil Redden, quand il parle un peu de leur collaboration, voilà, William Pugh, c'est à la fois, alors ça il le dit pas, mais c'est nous qui le constatons, William Pugh, tu sens qu'il a vraiment apporté l'humour, comme t'as dit. Mais sinon, en termes de production, William Pugh, il était assez carré. En fait, Redden, il avait tendance à faire un peu des trucs où, oui, bon, les joueurs, c'est bon, ils accepteront.
Ils ont compris le délire, voilà, et voilà, ça passe.
Pas besoin de non plus faire de la broderie dans cette salle-là. Et William Pugh, il était, non, on va faire un truc carré, on va vraiment bien le faire, on va bien le terminer. Et oui, comme tu dis, c'est un jeu qui est bien carré. C'est d'autant plus important, je trouve, dans un jeu comme Stanley Parable, qui te fait comprendre que tu ne vas jamais tromper, en fait, le jeu. Il n'y a pas de gameplay émergent, il n'y a pas de... On va trouver un interstice, un petit bug, et là, boum, on se retrouve à faire un speedrun à la Super Mario 64.
Justement, que tu n'arrives pas à piéger le jeu, parce que sinon, ça marcherait plus si tu trouverais un truc, un glitch qui ferait que ça marcherait plus.
Une partie du propos, c'est de décevoir les gens qui voudraient vraiment tromper le narrateur et casser le jeu, et en fait, non, pas du tout. Donc déjà, il y a un peu ce côté assez carré. Au niveau du rythme, hein, aussi, il est assez... C'est carré, en tout cas bien rythmé. Ils sont bien conscients que c'est un jeu qui pose un challenge, celui de la répétition, puisqu'on va recommencer au début quasiment à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose dont ils sont très conscients. Et du coup, ils ont utilisé différents outils. Il y a, les phases sont assez courtes, déjà, entre chaque choix. En général, quand on est dans un tunnel, bah, c'est que c'est une fin. Et a priori, on va pas
moyenne,
le refaire.
C'est maximum 20 minutes, 20-25 minutes pour faire les plus grosses fins. Et t'en as les qui sont beaucoup plus courtes. Donc c'est vraiment, ça dépasse pas la demi-heure, là. Un cycle ne dépasse pas une demi-heure.
Oui, clairement. Et il y a aussi y a des petits éléments qui sont randomisés, tu vois, dans certaines salles pour apporter un petit peu de variété dans les différents walkthroughs. Y a juste un moment, alors moi je l'ai pas vu dans le jeu, mais il le cite dans une de ses conférences. Apparemment, il y a un moment où tu peux commander, je crois, des boîtes, un truc comme ça. Genre, tu passes une espèce de coup de fil, ça commande, je sais pas, 50 caisses ou 50 boîtes. Et dans la prochaine run, en fait, tu verras, il y a genre 50 caisses qui sont dans une salle. Donc, c'est un petit peu de l'humour aussi qui varie un peu le truc.
Et puis même le narrateur, hein, même quand tu commences, quand tu recommences à chaque fois le jeu, il a quand même plusieurs lignes, il te répète pas à chaque fois exactement la même chose. Il va donner est-ce qu'il a manqué un mot ou est-ce qu'il faisait pas attention, un truc comme ça. Il va dire des choses un peu différentes. Moi, une fois, je me souviens, la première salle dans laquelle, quand tu sors ton bureau, à un moment, il y avait des papiers de partout. Et j'étais là, je suis ok, très bien, ça marche. Et en fait, effectivement, ça permet de casser un petit peu cette petite répétitivité. Et surtout, comme le jeu, t'es dans cette espèce de dialogue, hein, de jeu que t'es avec le jeu, en fait, de dire est-ce que c'est un détail important, est-ce que c'est quelque chose qui m'emmène, est-ce que ça veut dire que je suis dans une autre fin, est-ce que ça veut dire que je suis dans un cycle particulier. T'as toujours cette espèce de suspicion, en fait, que le jeu essaie de te raconter quelque chose dès qu'il y a un élément qui change, qui a bougé, que du coup ça garde ta curiosité et ton envie de recommencer des cycles.
Ça c'est un aspect du design qui est super intéressant, parce que l'idée d'apporter comme ça de la diversité dans le level design, ça permet de briser la monotonie, mais ça ajoute en fait, ça nourrit en fait tout le narrative design, puisque comme l'idée, tu l'as dit, c'est de questionner le jeu et d'essayer de le pousser en fait à la faute, hein, puisque l'une des, tu vois, on peut avoir vraiment tout un tas de on va dire d'approches du jeu. On peut avoir l'approche max YouTube. Moi, j'ai essayé justement de piéger le jeu en voyant jusqu'où il allait aller et voir si ils avaient pensé à tout et jusqu'où ils avaient pensé à tout, parce que je trouvais ça très drôle d'aller le voir. Et le fait, comme tu dis, de relancer une partie et de voir que le bureau il est pas disposé de la même manière, parce qu'il y a 3 ou 4 bureaux différents, ne serait-ce que la première pièce, elle peut être différentes. À chaque fois, je me dis, justement, comme tu le dis, tu vois, tu as un doute, tu te dis, ça se trouve, ça veut dire quelque chose. Et en fait, ça relance instantanément ton intérêt pour cette partie, ce cycle-là. Et du coup, bah, tu vois, là, c'est comme si tu remettais une pièce dans la machine et tu repars tout de suite 15-20 minutes, ce que tu te dis, c'est bizarre, il me dit pas la même chose, jusqu'où il va continuer de pas me dire la même chose. Et moi, j'ai vraiment adoré ça. Et un truc qu'on peut dire également sur ce côté jusqu'au boutiste et sur le côté polish, vraiment, parce que le jeu est très bien fini, c'est que bah, d'une, déjà, il y a effectivement pas de glitch, ou en tout cas, moi, j'ai jamais eu de fin vraiment bugué, etc. J'imagine qu'il y a des gens, si on cherche sur YouTube, qui ont trouvé des trucs, comme d'habitude. Mais dans les faits, si on y joue à peu près normalement, comme on peut pas sauter, il n'y a pas d'action spéciale, tout va bien se passer. Et le truc, vraiment, l'action la plus centrale, c'est de déclencher des textes. Et ça, ça marche ultra bien. Tu le disais tout à l'heure, le moment où tu choisis de descendre de la plateforme et de sauter, le texte s'arrête. Et c'est un des trucs, en fait, dans les jeux vidéo, on ne s'en rend pas compte, mais vous avez déjà dû le voir dans des dialogues, dans n'importe quel RPG, quand ils doivent se couper la parole, ça marche jamais. C'est genre.
Ouais, c'est compliqué. Ouais.
Ah oui, je voulais te dire que et il y a toujours un blanc entre les deux, parce qu'en fait, lancer les deux dialogues d'un point de vue bêtement du script, etc., c'est pas forcément si évident que ça. C'est très rare les jeux qui arrivent très bien. Et là, Stanley Parable, on sent qu'ils ont vraiment bossé ça énormément bien, parce que peu importe le moment où ils vont s'arrêter, tu vas sauter, ça sera pas forcément toujours au même moment de la phrase. Ils peuvent pas l'anticiper. Ils savent que ça va se passer entre tel et tel moment, mais ils peuvent pas dire ça sera à tel mot. Et donc, quoi qu'il arrive, le texte va prendre vraiment le pas, la nouvelle phrase va prendre le pas dessus. Et ça, c'est un truc qui, je trouve, en tant que joueur, est extrêmement agréable, parce que tu sens justement, au bout d'un moment, cette espèce de confiance. Et en fait, moi, j'ai eu une relation un petit peu évolutive avec le jeu. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bon, je vais les piéger, du genre, je suis un gros cerveau et je vais comprendre le jeu mieux qu'eux. Et au bout d'un moment, j'ai cette espèce de connivence de, ils sont trop géniaux, c'est mes nouveaux copains et je les adore. Et j'ai envie d'aller voir avec eux jusqu'où ils sont allés et de kiffer avec eux, tu vois, cette espèce d'humour de proposer comme ça plein de situations.
Et ils sont allés vraiment loin, tu vois, comme on disait, il y a plein de fins différentes, il y en a qui ont des identités vraiment, vraiment uniques. Et en plus de ça, là où ils sont aussi jusqu'au boutiste, c'est que t'as des fins où même le narrateur, tu vois, qu'on trouve un petit peu omnipotent, parfois légèrement faillible, mais il y a des fins où vraiment juste, il n'est lui aussi qu'un rouage en fait du système, tu vois. Ils ont même entre guillemets pensé à ça, c'est un peu évident, hein, dit comme ça. Mais il y a un moment où boum, tu vois, il s'arrête de parler, il y a une narratrice qui prend sa place et qui narre en fait et Stanley et le narrateur, donc il y a vraiment un niveau dessus.
Encore une mise en abîme justement de cette relation qu'il y a dans le jeu.
Et il y a une autre fin, un moment Stanley et le narrateur tombent sur une espèce de tableau blanc qui va dérouler en fait toutes les actions à venir, et même le narrateur il le découvre, tu vois. Donc il y a un côté, ils ont aussi fait ces différents niveaux, ces niveaux degrés,
bah, c'est ça qui est bien, je trouve, et c'est ça qui garde le jeu, qui a vraiment des surprises. C'est parce que bon, moi j'ai fait la fin, voilà, la vraie fin obéissante, et après je me suis dit bah je vais quand même en essayer d'autres. Et je trouve que très vite en fait, déjà ce qui est bien, c'est que à chaque fois que tu prends un embranchement, en général, tu vas apercevoir qu'il y a l'autre embranchement, c'est-à-dire bah, les deux premières portes, bah, tu dis ok, bah, la prochaine fois j'irai à droite, et puis après tu dis ah bah là il y a un petit machin marqué escape, bah, je passerai par ici la prochaine fois. Et du coup en fait à chaque boucle tu peux te dire bah ok, peut-être à la prochaine fois voilà ce que je vais faire et je verrai où ça m'emmène. Et surtout bah, à chaque fois ça t'emmène dans des lieux assez différents et trucs auxquels t'as pas forcément pensé, parce que oui c'est facile a posteriori de dire ah bah oui ils sont amusés à faire de mettre en abîme le narrateur, mais quand t'arrives dessus tu dis ah bah oui c'est rigolo, j'avais pas pensé à ça. Et surtout bah, c'est complètement différent du fait que d'arriver dans Portal ou Minecraft. Enfin, c'est des trucs complètement différents, et pourtant, ça nourrit vraiment le thème du jeu. Et ce que je trouve très fort, en fait, c'est que tu te dis que ces mecs-là, ils sont vraiment pris la tête à nous cadrer, parce que c'est ça, finalement, les jeux. Ce qui t'explique le jeu, c'est que malgré tous tes choix, en fait, t'es toujours bien cadré. Ils ont toujours pensé à tout, ils savent comment va se passer le chemin, ils savent ce que tu vas vivre, et c'est hyper important en fait qu'on puisse pas le prendre à défaut, parce que sinon ça marcherait pas. Et surtout, bah, c'est ça la réflexion, c'est de te dire, bah, en fait, dans les jeux vidéo à choix, tu peux pas vraiment les prendre à défaut. Les choix que tu fais, en général, ils ont déjà été prévus, et en fait, c'est prévu que tu choisisses un de ces trucs-là, et tu vas vivre ce qu'on a prévu de te faire vivre, quoi.
Oui, on en avait parlé dans l'épisode sur The Witcher, mais justement, en fait, plus tu vas rendre ton système, ton arbre de possibilités complexe en tant que narrative designer, plus ça va devenir galère à gérer, parce que du coup, tu vas pas forcément anticiper les moments où les gens, surtout dans les open world, vont arriver à tel ou tel endroit. Ouais. Donc ça pose souvent des problèmes parfois de cohérence, hein, coucou Skyrim. Et du coup, plus tu vas rendre complexe, plus ça va être difficile de le faire. Mais là, comme ils ont fait quelque chose de très simple et où il y a un level design qui, je trouve, est vraiment très bien fait, parce que comme tu le dis, la carte mentale des bureaux, petit à petit, tu vas l'apprendre par cœur. Tu vas savoir que, ben, là, cette fois-ci, j'ai pris à tel endroit, et donc la prochaine fois, je vais prendre à tel endroit. En gros, si tu joues 4-5 heures d'affilée à Stanley Parable, tu vas voir presque tout. Tu vas quasiment tout voir, on va dire.
À part même les choix les plus dark cachés, quoi.
Même en 2-3 heures, même une heure, tu as déjà le temps de finir le jeu 3-4 fois et tu commences déjà à t'approprier ces lieux. Et ça veut dire que ça fonctionne bien, en fait. Tu vois, le level design fonctionne bien parce que c'est suffisamment lisible. Et donc, toi, tu peux t'approprier ces lieux et la prochaine fois, tu sais que tu vas être venu là. Ah oui, tiens, j'avais pas fait ça, il faut que j'y pense la prochaine fois, etc.
Comme beaucoup de jeux indés, c'est encore un jeu qui a bien le sens de la mesure, en fait. Et de se dire, bah voilà, pour que les gens puissent comprendre le truc et ne se sentent pas non plus complètement submergé par tous les trucs à faire, ça part pas dans tous les sens non plus, il n'y a pas 1500 embranchements, c'est pas le bordel innommable pour que tu puisses pas t'y retrouver. Effectivement, c'est quand même assez carré, c'est quand même assez petit, finalement l'espace de jeu il est pas très très grand, mais voilà, tu vas avoir à chaque bout, il y a des espèces de grandes couches, enfin là où justement il y a la narratrice qui reprend, c'est dans une espèce de musée où comme ça les objets du jeu sont mis en abîme dans un endroit, dans un environnement totalement différent, très clinique, où justement tu vois bien que c'est des assets de jeux vidéo qui sont placé comme ça, genre le téléphone, l'espèce de Minitel, le bouton. Et ça, c'est vrai que c'est assez drôle et je trouve que c'est bien fait. Mais voilà, il part pas non plus dans tous les sens et ça te permet de pouvoir prendre la mesure en fait de ce qu'est le jeu dans son entièreté.
Et il y a beaucoup du coup de ces fameux twists, hein. Vous, c'est un truc dont vous aviez parlé sur Game Next Door, mais les fameux tricks, tu vois, les petits trucages du jeu vidéo, les rares moments où par exemple où ils te laissent cette liberté, où tu vois des portes partout qui s'ouvrent, en fait il y a une espèce de timer et tu peux pas vraiment être perdu. Au bout d'un moment, le jeu va reprendre le truc et il va rajouter la bonne porte. Il y a souvent le passage, comme tu disais, où tu te mets à tourner sur la droite, puis tu tournes sur la droite, puis au bout de 4 ou 5 fois tu te rends compte que tu tournes en rond, et le jeu à un moment donné va rajouter un couloir et il profite juste de cet instant où toi tu ne vois pas ce qui se passe,
réalisation en fait que t'es en train de boucler, et après le jeu il fait hep, c'est bon, ça y est, t'as
et là,
compris
il te laisse faire,
donc vas-y.
Et donc il te rajoute une porte, il te met un couloir, etc, etc. Des fois il va te remettre en arrière, il y a un moment où justement tu vas pouvoir prendre, il te dit il y a une porte rouge et une porte bleue, il te dit tu prends la porte rouge, et donc toi tu vas prendre la porte bleue. Là il te téléporte, il te dit non, t'as pas compris,
porte rouge, c'est vrai.
Tu reprends la porte bleue, il se dit bon, j'en ai marre, donc il te remet sur la même pièce. Il y a des lumières dans tous les sens, il y a des grosses flèches, etc.
Il y a que la porte rouge devant,
il y a plus que la porte rouge derrière, voilà, il faut se retourner pour voir la porte bleue. Et là il en peut plus, mais en fait justement à travers ça on retrouve en fait beaucoup de tendresse, on va dire, pour le jeu vidéo, et on sent que c'est des gens qui ont fait beaucoup de jeux, parce qu'en fait ces trucs là des grosses flèches, etc., où c'est des trucs qu'on voit dans les jeux mais qui sont amenés de manière un peu plus subtile, mais quand on a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, on voit les trucs avec les gros sabots arriver, vous voyez. Au bout d'un moment, c'est quand vous voyez un truc blanc auprès d'une corniche, maintenant n'importe qui a joué un petit peu à des jeux vidéo dans les 10 dernières années sait qu'on va pouvoir s'y accrocher,
le lampadaire qui éclaire juste un petit truc où il y a l'objet, il y a les petites munitions dessous. Bon voilà, effectivement,
voilà, si vous voyez un tonneau rouge a priori dans un jeu, vous avez une arme, il y a de grandes chances que quand vous tiriez dessus, ça explose. Donc voilà, ces codes-là, en fait, ils sont tellement, on les a tellement internalisés, on les a tellement, voilà, on se les a appropriés, le jeu va du coup réussir à les exploiter, et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'il est drôle.
Et il pousse le truc vraiment jusqu'au bout avec les achievements aussi, où là, il y a des achievements qui sont.
Oui, c'est vrai qu'il y a les succès,
des blagues, même sur les achievements, il y en a un, je crois que tu peux pas débloquer, c'est juste, non, cet achievement n'est pas débloqué.
C'est tellement horrible, c'est pour les overachievers, quand il va arriver sur console, s'ils font un truc où tu peux pas avoir le platine.
Il y a des gens qui vont pas
que...
y jouer, hein, c'est
sûr. Oui, il y a des gens qui vont l'éviter parce qu'ils pourront pas avoir le platine.
Il y a l'achievement, faut pas jouer pendant 5 ans. Ouais. Voilà. Ouais. Il y en a un, tu l'as juste, this is an achievement, et pff, voilà, t'en as un. Enfin bref, c'est un peu. C'est l'humour encore, mais c'est encore les codes du jeu vidéo, tu vois, qu'ils ont bien intégré pour, encore une fois, se... il se moque pas du jeu vidéo, il se moque avec le jeu vidéo.
On le désacralise un petit peu, tu vois, on grossit un peu le trait pour nous faire rendre compte que, bah oui, effectivement, on suit des flèches, on suit des lumières, on prend une porte rouge, on prend un truc bleu plutôt que rouge. Voilà, il y a cette espèce de relation qui se met en place. Et c'est vrai que, du coup, je pense que c'est un jeu qui marche beaucoup plus quand justement tu joues aux jeux vidéo et t'es déjà peut-être dans une démarche un peu réflexive par rapport à celui-ci, tes habitudes de joueur, les clichés, les trucs. Quand tu rentres un peu dans cette conversation là, c'est un jeu qui marche extrêmement bien parce que il concrétise des réflexions que tu peux avoir et des petites blagues même que tu pouvais te faire qu'on peut se faire entre nous. Et c'est vrai qu'au moment où il sort, justement, je pense qu'on est dans le début de cette... Enfin, peut-être pas dans le début, hein, il y a des gens qui étaient peut-être déjà dans la réflexion, mais justement, on commence à se poser des questions sur l'illusion des choix, sur le fait que des choix, c'en est pas vraiment, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un choix si tu n'as que deux options? Tu n'es pas vraiment libre, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Dans Stanley Parable, par exemple, tu peux pas casser les vitres. Ça, c'est un choix qui n'existe pas. Et c'est ça, pour moi, qui l'explique, en fait, le jeu. C'est de te dire que, en fait, le système, par ses règles, dès qu'il y a un système et qu'il y a des contraintes dedans, tu ne peux pas... Tu peux avoir une liberté au sein de ces contraintes, mais par contre, tu ne pourras pas les dépasser, ces contraintes. Et il y a toujours un rebord, en fait. Et dans n'importe quelle expérience de jeu, il y a toujours un moment,
rebord. Oui, c'est
ça. Rebord.
C'est qu'il y a toujours un moment où le jeu, en fait, va nous rattraper. Et à un moment donné, il y a la limite de ils n'y ont pas pensé. C'est-à-dire que des fois, ça va être très moche et ils n'y ont pas pensé que tu pourrais arriver à cet endroit-là. Et donc, il n'y a rien dans cet endroit-là et tu te retrouves dans une espèce d'endroit bizarre.
Comme quand on traverse les textures.
Oui, qu'on se retrouve dans le vide. On n'est pas censé voir ça. Tu vois, c'est l'envers du décor. C'est cette fameuse petite magie de prestidigitateur qu'on n'est pas censé voir, on n'est pas censé voir les trucages. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que, comme tu l'as dit, on a cette culture du jeu vidéo. Et je trouve ça très fort parce que des jeux qui utilisent l'humour, c'est finalement très rare. Hein. C'est très difficile d'être drôle. Ouais. C'est faire de l'humour, c'est un truc très sérieux. Hein. C'est pas un truc qu'on improvise.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Et dans un jeu vidéo, encore plus, puisque du coup, l'humour, c'est quelque chose alors qui était très utilisé dans les années 80. C'est vrai qu'il y a eu toute la grande époque des jeux LucasArts, les Monkey Island.
Drôle, mais c'est pas la même forme d'humour, c'est un humour qui est plutôt écrit, dialogue, etc. C'est pas un humour méta, tout simplement.
Non.
Hein, alors que là, dans Stanley Parable, on est vraiment dans une... C'est auto-réflexif par rapport aux jeux vidéo.
Et ça, c'est très très rare, parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, un des gros problèmes de l'humour, en fait, si jamais vous voulez vous mettre à écrire des jeux vidéo, c'est que vous allez vous adresser à des gens qui ne parlent pas la même langue et qui donc n'ont pas la même culture et qui donc ne réfléchissent pas de la même manière. C'est-à-dire que, comme pendant très longtemps, on considérait que les jeux vidéo, c'était un truc d'occidentaux, tu vois, un peu vraiment le cliché du blanc judéo-chrétien, etc. Là, finalement, aujourd'hui, le jeu vidéo, ça peut être s'adresser à des gens de toutes les cultures, de toutes les langues, et donc il faut trouver en fait un langage un peu commun, et justement, ce langage commun dans Stanley Parable, c'est les codes du jeu vidéo, puisque les codes du jeu vidéo sont toujours les mêmes, et donc c'est un langage commun, que tu sois chinois, malaisien...
Oui, c'est la grammaire ludique qu'on a mis en place, avec tous les artifices, les
trucs... On va avoir tous ces mêmes réflexes-là, et quand on va les voir se réduire à leur plus simple expression, ou être mis en dérision par des trucs ultra évidents mais qu'on accepte d'habitude parce que il y a cette fameuse suspension d'incrédulité.
Oui, et puis il n'y a pas le minimalisme qu'a le jeu parce que justement tu as tout l'enrobage. Voilà, les jeux Naughty Dog en vrai c'est pareil, il y a une grosse flèche et tout. Mais c'est que justement Naughty Dog ils savent très très bien te faire mais regarde, il y a plein de feuillages et des trucs, tu vois pas la flèche, mais c'est ton cerveau qui la lit un peu implicitement.
Il y a des tonnes de moments dans les jeux vidéo, c'est comme avec les enfants, tu vois, tu secoues les mains très fort pour qu'ils pensent pas, ils viennent de se cogner les genoux et toi tu secoues les mains du genre t'as vu, t'as oublié, ça y est. Ça marche comme ça un peu les jeux vidéo, il y a ce côté un peu jeu de dupe, mais on l'accepte et ça nous fait plaisir. Et quand c'est enfin mis un petit peu en dérision, c'est quelque chose de très nouveau parce qu'il y a finalement peu de jeux qui s'amusent à prendre ça. Et Stanley Parable, en faisant ça, il trouve cette espèce de langage commun, tu vois, il prend cette grammaire du jeu vidéo et il arrive du coup à faire un truc drôle. Peu importe d'où tu viens, si t'as déjà joué un peu à des jeux vidéo, que t'as un semblant, tu vois, je pense que c'est un minimum de bagage culturel dans le jeu vidéo, tu joues à Stanley Parable et tu trouves ça drôle.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on se demandait, c'est si quelqu'un qui n'a vraiment quasiment jamais joué aux jeux vidéo, est-ce qu'il va pouvoir ou est-ce qu'elle va pouvoir appréhender toutes les ce que raconte vraiment Stanley Parable. On sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a certaines choses, j'imagine, qui seront drôles parce qu'encore une fois, le narrateur il est amusant. Il y a plein de choses, il y a plein de degrés d'humour en fait qui peuvent être perceptibles par tout le monde. Et après, t'as des espèces de trucs vrais qui vont vraiment te faire rire, mais t'es pas devant ta console genre c'est excellent, mais espèce d'humour un petit peu, tu dis hey, c'est malin, je comprends ce que tu veux me dire.
De toute façon, à son cœur, tu vois, le jeu, le concept, il est un peu drôle, tu vois, vraiment le moment où tu vas choisir la porte de droite plutôt que la porte de gauche, et là le narrateur il dit non mais en fait il a décidé de faire un détour, il y a une petite, ouais, il y a une petite tu vois, en fait j'allais dire complicité, il y a une complicité dans la désobéissance, tu ouais, vois, avec les devs, tu vois, où c'est un peu
voilà, c'est un dialogue, hein, vraiment, je trouve que le jeu c'est vraiment un dialogue, c'est le dialogue avec les designers, justement, tu rentres, tu le disais, c'est vraiment une espèce de connivence, complicité, comme tu dis, il y a vraiment ça, effectivement.
Et un autre truc qui est super important, en fait, à comprendre, je pense, avec Stanley Parable, et qui m'a, moi, à l'époque, vraiment frappé, j'y reviendrai un peu dessus à un moment donné, pour le petit passage, on va dire, biographique, mais... moi, le truc, je vais le dire maintenant. Ce qui m'a vraiment marqué, en fait, dans Stanley Parable à l'époque, c'est que cette forme d'humour-là ne pourrait pas fonctionner autrement que dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que le fait de se retrouver face à deux portes et de choisir celle de droite plutôt que celle de gauche, ça ne marcherait pas autrement que dans un médium dans lequel on a une action sur l'image qui se passe devant nous. Et donc, en fait, cette forme-là d'expression, elle n'existe que grâce aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir des blagues, tu vois, sur... Il y a tout le temps eu des choses un petit peu autoréflexives, un peu méta, que ce soit dans le cinéma, dans la radio, dans même les bouquins, mais tu as finalement... À chaque fois, c'est limité à ce médium-là, parce qu'ils vont utiliser ces codes qui sont liés à un moyen d'expression, et là, Stanley Parable, pour la première fois, en tout cas moi, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais avec un jeu qui me mettait face à des situations rigolotes, uniquement que je ne pouvais vivre que dans un jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment, je pense, pour ça que c'est un jeu qui a été autant plébiscité à sa sortie et qui reste encore aujourd'hui un petit peu un classique.
C'est ce à quoi je pense quand je dis que c'est la concrétisation, en fait. C'est une espèce de concrétisation ludique, vidéoludique, de réflexion qu'on pouvait avoir sur le jeu vidéo. C'est des pistes qu'on pouvait avoir. On se disait, oui, les choix, en fait, t'es contraint par les systèmes et tout. Et là, le jeu te dit, je vais te faire jouer, en fait, ces réflexions. Et du coup, tu les vis concrètement à travers le jeu et elles ont d'autant plus de sens, en fait, dans ce contexte-là. On en parlait pendant la préparation, on pensait au bouquin de Scott McCloud sur la BD, qui est une BD sur la BD, pour t'expliquer, en fait, c'est quoi les codes de ce truc, comment ce médium il s'exprime, comment ce médium il fonctionne, et du coup, c'est un peu la même chose. Stanley Parable, c'est un jeu qui t'explique comment fonctionnent un peu les jeux, comment, c'est quoi leur paradoxe, leur façon de se délimiter, leur façon de nous garder dans l'illusion comme ça du choix, comment ça marche dans un jeu et dans un jeu.
Nous, quand on qualifie Stanley Parable, entre nous, dans la préparation, on a beaucoup dit que c'était un essai. Ouais. En fait, on n'a pas tant dit que c'était un jeu que ça, même si ça l'est évidemment, mais pour moi, avant tout, c'est un essai. Mais c'est un jeu parce que c'est un essai qui est jusqu'au boutiste. En fait, parce que tout ce qu'il dit, théoriquement, tu pourrais le dire par écrit. Hein. C'est ce que, d'ailleurs, c'est nous, on le fait à l'oral.
Exactement.
Mais il en a fait un jeu, tu vois. C'est un jeu qui va questionner le jeu vidéo, qui va exploiter toute la grammaire du jeu vidéo pour vraiment transmettre par le jeu vidéo ce qu'on peut ressentir que là, en fait.
La conversation qu'on a là entre nous, elle est cimentée justement parce qu'on a l'expérience du jeu, en fait. Et si vous ne l'avez pas, forcément, vous pouvez nous comprendre, hein, évidemment. Je pense que vous pouvez percevoir ce qu'est The Stanley Parable. Mais c'est vrai qu'en y jouant, il y a un ressenti beaucoup plus fort. Et voilà, l'interaction qui se passe, ce petit jeu de choisir ou non d'obéir, de désobéir, c'est quelque chose qui se passe parce qu'on a la commande, en fait.
Oui, c'est ça. Comme c'est nous qui sommes au contrôle du personnage, il y a ce petit moment de plaisir où tu te dis... Allez, je vais plutôt de ce côté. Ah, je vais plutôt changer d'endroit. Je vais tourner à gauche plutôt qu'à droite. Et parce que j'ai le choix, j'ai cette liberté. Et le jeu, évidemment, va te mettre, on l'a déjà dit plein de fois, dans la face que, en fait, vraiment, t'es jamais vraiment libre. Mais c'est pas grave. T'as ce petit moment où tu te dis, peut-être que c'est là le moment où je vais désobéir et ça va fonctionner et je vais vraiment sortir du truc et il va vraiment peut-être se passer quelque chose. Mais c'est pas grave, en fait, si à la fin tu casses pas le jeu, parce que tout du long t'as cette espèce de dialogue avec la machine, et ça, il y a que le jeu vidéo qui pouvait te le fournir.
Et je pense même, c'est vraiment ce que j'en tire de ce jeu, c'est-à-dire que peut-être qu'au début des années 2010 j'étais en mode ouais, les choix c'est pas intéressant parce que finalement c'est limité, tout ça n'est qu'une illusion, mais au final moi ce que The Stanley Parable me fait dire c'est que c'est pas grave, en fait c'est pas grave, profitons justement du moment où on a ce choix, profitons de cette illusion parce que même si ce n'est qu'une illusion, on peut y adhérer, on peut suspendre un peu son incrédulité, et du coup c'est bon, en fait on peut profiter de ça. Et pour moi c'est vraiment ce que je tire de Stanley Parable, c'est que oui, tout ça n'est qu'une immense fumisterie, mais c'est pas grave, on a envie d'y participer et ça marche, en fait, tant qu'on est dedans.
Et pour moi, si Stanley Parable il a eu autant de succès et d'effets, c'est parce que c'est pas un jeu qui a une conclusion si nette que ça, tu vois. C'est pas un jeu à la fin qui dit les choix c'est ça. C'est plutôt à la fin il va te faire poser la question. à quoi bon ? Pourquoi est-ce que j'ai joué à Stanley Parable ? C'était quoi ses fins ? C'était quoi ses choix ? Et c'est vraiment, par rapport aux autres jeux, c'est un jeu qui va vraiment, tu sens, retirer le tapis fait, sous le pied des autres jeux. En fait, il enlève les conséquences des choix. Il dit, et qu'est-ce qui reste ? En fait, les autres jeux, comme on l'a dit, tu prends tel choix, tu peux pour avoir la bonne fin, ou pour avoir la bad ending, ou là, je sais pas quel ending, tu vois, la méchant, la gentil. Et là, en fait, il enlève tout ça, il dit, bah, une fois qu'on enlève vraiment des conséquences importantes ou narratives, bah, qu'est-ce qui reste dans le choix, en fait ? Est-ce que le choix en lui-même, il est intéressant ? Est-ce qu'il est important ? Et Davey Redden, ils en parlent, hein, dans une des confs, où ils disent, bah, en fait, il y a une expressivité juste dans l'action de choisir. On s'en fout de ce qu'il y a derrière la porte de gauche ou la porte de droite. Le fait que t'aies choisi la porte de droite ou que t'aies choisi la porte de gauche, quand un narrateur t'a dit prends la porte de gauche, bah juste ça en fait, c'était déjà intéressant.
C'est ludique, c'est intéressant et c'est engageant en fait comme, bah, comme principe, quoi, comme interaction.
Ouais, alors sans aller évidemment jusqu'à dire, parce que dans la conf, il commence à dire que voilà, c'est votre rapport à l'autorité.
Oui, bon, oui,
c'est,
ça,
c'est pas parce que vous allez jouer à Stanley Parable que vous allez vous révéler être un anarchiste. Mmh, mais non, par contre, vous allez juste peut-être pendant quelques instants être dans cette espèce de connivence avec le jeu et vous amuser avec cette idée-là de oh, bah, là, je vais obéir, là, je vais désobéir, on va tester, on va aller voir les limites, tu vois. Et je trouve que c'est ça finalement un peu le jeu vidéo. Et moi, à titre personnel, quand il est sorti le jeu, j'étais au tout début, on va dire, de cette étrange carrière où je me filmais ma télé en train de jouer à des jeux vidéo et d'en parler et de dire aux gens de faire des roulades. Et donc j'avais pas encore toutes ces réflexions là, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment à un début de process de réflexion, hein, qui est toujours en cours, hein. Je pense que ça va me durer probablement toute ma vie. Et quand Stanley Parable est sorti, vraiment ça m'a fait non pas un choc, mais ça m'a fait vraiment comprendre un tas de trucs sur lesquels j'avais encore jamais réussi à mettre de mots, tu vois. J'avais l'intuition, je m'étais dit bon, les choix c'est un peu osef, tu vois. Déjà à l'époque je râlais sur Skyrim, déjà à l'époque je râlais sur Heavy Rain, donc je sentais qu'il y avait déjà des trucs qui me gênaient dans ces jeux là et j'arrivais pas forcément à expliquer pourquoi. Et effectivement, comme tu l'as dit Hugo, ça me mettait vraiment le doigt sur, en fait ces choix là sont assez illusoires, mais c'est pas ça qui est vraiment grave, comme tu l'as dit. Ce qui est important, c'est juste l'idée de profiter de cette liberté, profiter de ces trucs là et moi ça m'a vraiment, vraiment apporté énormément dans ma réflexion personnelle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui, moi j'étais content, tu vois, qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est un jeu un peu charnière dans ma progression en tant que joueur et en tant que professionnel maintenant du jeu vidéo, parce que ça m'a apporté tout un tas de réflexions que je n'avais encore jamais eues avant de pouvoir y jouer.
Oui, je pense que de toute façon, au-delà de nous, de nos expériences respectives, forcément, là, ouais, Stanley Parable, c'est devenu un jeu quand même assez culte, même s'il est sorti que sur PC, encore une fois, hein, je pense qu'il y a encore plein de gens qui peuvent le découvrir. Mais oui, moi, je considère que c'est un jeu, c'est pas un jeu qui est cher à mon cœur non plus, parce que c'est pas un jeu qui joue sur les émotions, c'est pas un jeu qui va te chercher, générer de la tristesse, de la colère, des trucs comme ça, enfin, des trucs un peu primitifs que j'aime bien, vers lesquels les jeux m'amènent. C'est un jeu qui est très intellectuel, hein, c'est pas vraiment une fiction, c'est comme tu dis, c'est plus un essai. Et du coup, c'est pas un jeu qui m'a touché comme ça. Mais par contre, sur la réflexion, dans la manière qu'on a d'aborder le jeu vidéo, d'y réfléchir, je pense que c'est un jeu qui est important. Et je pense que s'il n'existait pas, on n'en serait peut-être pas. Enfin, cette espèce de grand mouvement de réflexion autour du jeu vidéo, je pense qu'il serait peut-être pas exactement au même stade sans The Stanley Parable aujourd'hui.
Après, tu sais jamais si c'est l'œuf ou la poule, tu vois.
Est-ce oui, que bien c'est, sûr. Voilà. Bon, de toute façon, ça oui, sert, oui. Voilà, on peut pas jouer dans les trucs métaphysiques.
Voilà, si les inventeurs n'existaient pas, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui inventerait leur invention à leur place,
parce que tu peux voir ça comme un truc providentiel, de dire bah ça devait exister à ce moment-là, parce que le jeu vidéo justement il était dans ses réflexions.
Par contre, si tu pars, tu vois, d'un bête principe de causalité, tu te dis bon bah il y a eu ça et du coup on en est là aujourd'hui. Tu vois, c'est vrai que quelques années plus tard, boum, fin du game. Alors évidemment c'est pas juste le résultat de
mais
il y a tout un faisceau de causes qui nous ont amené à arriver un jour en se disant bon bah on a une trentaine d'années, on a envie de parler de jeux vidéo, comment on va le faire, comment on va aborder cette question du jeu vidéo et comment on va en parler. Et du coup, sans des jeux comme Stanley Parable, je pense qu'on n'aurait pas forcément pousser, tu vois, la limite de notre réflexion pour prendre un peu de recul, comme le jeu le fait, parce que le jeu prend un peu de recul sur le jeu en se moquant de lui. Il y a un côté très auto-réflexif, très auto-dérision, et ça te permet de, je trouve que c'est une approche qui est très saine en fait, de la réflexion quand on a le jeu vidéo, plutôt que de se prendre au sérieux en mode oui ou là là c'est trop important les couloirs, etc. Comme ça pouvait être le cas à l'époque, tu vois, c'était la grande époque, on l'avait dit, des jeux à choix, des jeux cinématographiques, il fallait que ça soit une expérience de cinéma, il fallait que ça soit une expérience de ceci, alors qu'en fait quand tu leur enlevais tout ce bullshit, tu te rendais compte que c'était Stanley Parable, c'était un jeu avec deux portes et tu vas soit à gauche soit à droite, mais c'est tout quoi.
Oui, il cristallise en fait un petit peu toutes les pensées qu'on pouvait déjà avoir. C'est le bon exemple. Nous avec GameXor, on avait fait une vidéo sur les choix. Bah forcément, Stanley Parable, c'est le bon exemple, c'est le truc qui te permet de verbaliser en fait certaines choses du discours. Et du coup, c'est en ce sens qu'il va vraiment participer en fait au discours autour du jeu vidéo, autour du choix.
Et oui, il nourrit la réflexion. Hein. C'est vraiment un jeu qui est un bon exemple à aller taper dedans parce que bah, voilà, il fait des choses de manière très aboutie pour te, vraiment te permettre de formaliser des réflexions que tu as.
Et il peut même éventuellement pousser un peu le cadre du jeu vidéo parce que c'est des questionnements. Du coup, quand on se pose des questions sur le choix, on peut se poser des questions sur la liberté. Est-ce que je suis vraiment libre quand finalement les deux couloirs sont complètement choisis ? Il y a des petites, il y a une injonction à un moment à vraiment quitter le jeu en te disant bah, de toute façon, ta seule liberté pour ne pas tuer Stanley, pour pas être piégé dans le jeu, c'est d'appuyer sur échappe et de quitter le jeu. Bah, c'est des enseignements que tu peux aussi un petit peu appliquer à la vie normale. Après, est-ce que ça vous emmènera vers le déterminisme, vers le nihilisme, vers l'existentialisme?
Oui, c'est un jeu qui peut t'emmener vers plein de réflexions, c'est sûr. Mais c'est vrai que déjà, en fait, rien que par rapport aux jeux vidéo, c'est un, voilà, il cristallise plein de réflexions qui sont intéressantes. Et voilà, c'est pas trop tôt, limite, qu'on les ait dans fin du game, même si, voilà, comme on l'avait dit avec Far Cry, il n'y a pas non plus un grand plan. On papillonne un petit peu comme ça dans le paysage.
Non, c'est vrai que c'est pas un choix conscient. Je pense que par contre, petit à petit, en fait, tu vois, on voit se dessiner des trucs dans chacun des épisodes. On commence à voyez. Enfin, je veux dire, même vous sur le Discord, vous vous moquez de nous avec nos mots qu'on commence à utiliser. Mais c'est parce qu'en fait, faut bien se dire que avant qu'on commence à parler d'enfin du game, cette façon de parler des jeux en les spoilant, en essayant de se détacher de notre opinion, c'était un truc qui n'existait pas trop, tu vois, c'était pas très présent, on n'avait jamais eu l'occasion de le faire, donc on invente un petit peu au fur et à mesure, et bah, moi je sais qu'à titre perso, voilà, on s'appuie sur des jeux comme ça, sur des trucs un
exactement,
peu ouais, charnières, des moments, des jeux cultes, c'est pour ça qu'on a choisi très tôt des jeux qui nous avaient marqués, parce que bah, c'était des jeux où on avait réussi à exprimer très rapidement des trucs, donc ça me fait plaisir enfin qu'on aborde Stanley Parable, même si je trouve que c'est une bonne description ce que vous en faites tous les deux, cette espèce de jeu essai à mi-chemin entre un pur essai limite philosophique sur le jeu vidéo et un vrai jeu, alors j'aime pas cette expression,
oh non,
c'est un
ça,
jeu
ouais,
comme
ouais,
un autre,
ça, y a pas
mais il y a cette surcouche un petit peu auto-réflexive et ça bah, c'est tellement rare en fait que...
Oui c'est un jeu qui est assez unique hein, en son genre malgré tout, encore aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des jeux qui ressemblent à The Stanley Parable, je sais pas si en fait, je sais pas s'il y aura l'occasion en fait de faire beaucoup des jeux comme ça parce qu'il est tellement auto-réflexif, il questionne tellement plein de choses dans le jeu vidéo.
Bah, t'as eu après des... choix, ouais, t'as eu des jeux oui, après qui ont repris un petit peu ce même concept, c'est-à-dire que depuis Stanley Parable, des jeux qui interrogent un peu, tu en as eu, mais qui du coup arrivent avec vraiment quelque chose d'original et vraiment un truc à apporter dont on n'avait pas encore trop parlé dans le jeu vidéo, pas vraiment, tu vois, il a ce côté justement précurseur à ce niveau-là, quoi.
Enfin, il y en a sûrement, tu vois, mais en fait, le truc, c'est que Stanley Parable, il est très, entre guillemets, grand public, parce qu'il y a vraiment toutes ces surcouches qui est très drôle, où il emploie les codes du jeu vidéo, il s'en moque un petit peu, avec complaisance, et du coup, c'est drôle à faire, c'est un essai, mais qui est très drôle, en fait, vraiment, comme on le disait, le fait de désobéir au narrateur, bah, c'est un concept, en fait, qui est super drôle, mais qui remet au centre, bah, qu'est-ce qu'un jeu vidéo te permet de faire par rapport à plein d'autres œuvres.
Et du coup, bah, c'est vrai que les deux créateurs, ils ont un parcours, ils sont dû partir. Et qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a fait The Stanley Parable ? Alors, ils ont chacun sorti des jeux différents. Donc, William Peele, il en a sorti plein de petits jeux
ouais,
gratuits.
Toujours, ouais. Bah, il a fait son petit studio, apparemment. Je crois qu'ils sont environ 5, notamment. Alors, il n'y a pas le titre complet, hein, mais c'est Dr. Langeskov. Il y a un tigre, il y a Whirlwind Heist.
Ah oui, c'est vrai qu'on l'a vu sur Wikipédia.
Ça
dépasse de la page de Wikipédia. Bah,
c'est marrant, ils ont chacun repris un peu deux choses que tu peux retrouver dans Stanley Parable, dans le jeu Dr. Langeskov, Nanani. Nanana, il y a tout cet humour, hein, vraiment, voilà, moi ma vision c'est que William Pugh c'est vraiment le mec drôle entre guillemets qui va vraiment faire les blagues et qui va écrire, et ce côté un petit peu coulisse du jeu vidéo, ouais. Parce que sans trop en dire, voilà, ce jeu là, qui est d'ailleurs dispo dans le bundle qui est sorti récemment, là,
ouais, il sera plus dispo,
ouais.
Ah, pardon, qui était dispo, si vous l'avez pris, vous savez pas trop
si vous avez acheté ces 1800 et quelques jeux,
c'est ça, et voilà, qui va un petit peu aller sur ce côté sous la surface du jeu vidéo, et on crée tout un imaginaire drôle en fait autour de ça, et lui David Redden il a plutôt repris la notion un peu de narrateur pas forcément fiable et ouais, parler c'est un peu plus personnel, tu vois, en tout cas ça a l'air d'être très personnel, mais comme c'est pas très fiable on sait jamais à 100%, mais de parler peut-être un petit peu
création
plus
de jeux vidéo,
c'est ça, de création
de la relation ouais, qu'il a,
le jeu en question,
ce
qu'on n'a pas dit non, ça s'appelle The Beginner's Guide,
voilà, tout à fait,
voilà, qui a été marketé comme étant le nouveau jeu du créateur de Stanley Parable, si vous l'avez pris en vous attendant à la même chose, vous risquez d'être un petit peu surpris, parce qu'effectivement on est plus là sur une espèce d'approche autobiographique du jeu vidéo,
il n'y a pas d'humour là,
c'est pas drôle, c'est vraiment plus de la narration très, bah, c'est vraiment un dialogue, hein, là pour le coup, enfin un monologue plutôt, ouais, du créateur qui s'adresse à nous directement en nous racontant une histoire, en nous disant, bah voilà, moi j'ai un ami, il a fait des jeux, je vais vous faire vous balader dans les jeux et vous allez comprendre des choses en jouant à ces, ouais, jeux. Et c'est tout. Ça dure 2 heures, c'est un truc à faire, je trouve ça assez intéressant, mais il ne faut pas vous attendre à la même chose que The Stanley Parable. Là, on est vraiment sur autre chose. Donc c'est assez rigolo de les voir tous les deux partir dans des directions différentes pour finalement, exactement, nous proposer un truc assez, j'ai envie de dire, assez cynique, l'édition Ultra Deluxe, ouais, où justement eux-mêmes, ils ont conscience que c'est un peu, non pas du foutage de gueule, mais que bah, c'est juste une motivation pécuniaire.
C'est encore un des tropes du jeu vidéo, ouais, c'est encore un des tropes du jeu vidéo de faire se une ressortir, suite,
de faire Ultra un remake. Deluxe,
et voilà, qui refait, on ressort partout et on prend l'argent, merci, salut, au revoir.
Ouais, ouais, avec le narrateur qui se moque en disant, allez, papa, il a besoin de se fabriquer une nouvelle piscine, et du coup, la moitié de la pub du Ultra Deluxe, c'est juste de la thune qui tombe dans le bureau de Stanley et qui se noie au bout d'un moment sous les billets, quoi. Donc, même eux, je sais pas exactement ce que ça va donner.
Nous, on se
posait
demande,
la question.
Voilà, ouais, nous, on se demande, est-ce que c'est simplement vraiment un remaster avec quelques petits ajouts, ou est-ce que ça va vraiment être encore une relecture complètement différente de Stanley Parable? Voilà, on ne le sait, on sait pas du tout ce
c'est
que
pas
ça
encore
va
sorti.
Être. En fait, c'est fou parce qu'ils nous ont tellement mis dans une relation de blague un peu méta que même en annonçant un nouveau jeu Ultra Deluxe, on en est à être dans la suspicion de se dire, est-ce que finalement c'est.
Ça se trouve, c'est autre chose.
C'est, ouais. On est déjà dans le jeu, en fait, ça se trouve, tu vois. De...
Après, une des raisons pour lesquelles on.
Stanley Parable était déjà là depuis le début.
Mais une des raisons pour lesquelles on suspecte ça, c'est aussi un espoir, en vrai, parce qu'on se dit que si. Enfin, en tout cas, Hugo et moi, Team, s'ils rajoutent, entre guillemets, que.
Team Tristesse, allez, bim, c'est balancé.
Bah, si c'est juste une version Ultra Deluxe avec des fins différentes. Bon, moi je.
Bah, tant mieux pour les gens qui pourraient, voilà, jouer sur console et tout.
Oui,
en fait,
oui,
m'en foutrais. Voilà,
en fait, voilà, il y a vraiment le côté console, là, je vais y revenir, mais dans un premier temps, vraiment, ce qui apporte à l'expérience, pour moi, voilà, il peut faire des fins drôles et tout, et pour moi, ce sera juste de l'humour, mais ça n'apportera rien au concept de base. Si on est cynique, déjà, on peut dire que la démo de Stanley Parable en soi, bah,
c'est celle de 2011, il y a tout ce que.
Il y a déjà, c'est vrai qu'on l'avait pas dit, mais il y avait une démo qui était sortie entre le mode et le jeu en 2013.
Ouais, mais je voulais dire le mode. En fait, le mode. Oui, je me suis trompé. Je voulais dire le mode de 2011. Déjà, il y a 6 fins différentes qui sont toutes dans Stanley Parable, et elles te disent déjà tout ce que t'as besoin de savoir, un, ouais, peu sur le, oui, questionnement des choix et tout. Mais voilà, il y a eu ensuite, et tant mieux pour eux de s'être payé aussi avec eux, je suis content que de Stanley Parable 2013 il soit sorti, parce qu'il y a toutes ces surcouches drôles et tout, et ça leur a apporté de l'argent pour pouvoir bosser sur des jeux. Mais là, c'est vrai que sur la version Ultra Deluxe, dans un premier temps, moi je me disais, bon, ça va pas apporter grand chose à Stanley Parable, mais je savais pas qu'en fait ça sortait sur console, chose qui était pas faite avant, donc tant mieux pour les gens effectivement qui ont pas pu y jouer sur PC jusque là, c'est la bonne occasion en fait, je pense qu'ils voulaient peut-être faire un portage, et ils se sont dit, bah tu sais quoi, on a peut-être des idées en plus, pourquoi pas autant en profiter. Mais c'est vrai que moi, je pense que j'y jouerai pas. Je regarderai sûrement sur YouTube pour rigoler un peu des nouvelles fins, mais bon, voilà.
Ouais, à voir. Moi, j'ai effectivement
mais,
cette
mais du coup, voilà, on espère que ce sera
que
pas
c'est
que ça.
Plus que ça, en fait.
Voilà, c'est, voilà, ça, oui. C'est pour ça que, oui, c'est là que j'avais oublié de boucler, mais on espère que ce sera plus que ça, parce que, enfin, tu vois, Hugo et moi, on n'est pas très intéressés par juste les fins de plus.
Bah, c'est normal, c'est le même jeu, on va pas forcément envie de rejouer au même jeu.
Non, mais enfin,
même
si c'est des fins,
oui,
plus,
je vais pas faire un jeu.
Parce qu'on a un adepte du New Game Plus.
Ouais, non, mais regardez, les deux là qui commencent à faire genre, ils se liguent entre eux.
La Team Roll Next Door Takeover.
J'aime bien les espèces
c'est
de
fini
tension.
Maintenant Exerve
c'est terminé non mais moi je serais curieux de le faire, mais en fait de toute façon le simple fait, tu vois, qu'on parle de l'Ultra Deluxe, ça veut dire que de base ils ont gagné, c'est à dire que même si vous allez juste regarder sur YouTube, vous allez en parler, on en parlera sur le Discord, on fera un petit tweet par-ci par-là, Hugo il nous fera une petite vanne cynique et acide dont il a le secret,
le clown de l'équipe
sur son compte
le
Twitter,
le clown triste de l'équipe.
Et moi avec grand plaisir je le referai, parce que justement comme j'ai un attachement assez pour le coup, j'aime bien, tu vois, j'étais content là quand j'ai relancé le jeu, j'ai eu mon petit succès parce que j'y ai pas joué pendant 5 ans, donc ça m'a fait marrer, étant donné que j'en ai rien à cirer des succès d'habitude, j'étais content d'avoir celui-là, mais du coup, tu vois, la voix du narrateur, bah, j'étais content de la réécouter, j'étais content de le réentendre, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui va se passer, mais je suis comme vous, c'est-à-dire que je suis dans l'attente de me dire, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet Ultra Deluxe. Alors, malheureusement, au moment où on enregistre le podcast, on peut pas en parler parce que ça aurait été rigolo de pouvoir le faire. Mmh. On refera peut-être un jour, on mentionnera peut-être un truc dans un petit épisode. Je ferai peut-être une petite vidéo.
Ce sera
peut-être l'occasion d'en parler. Tu vois,
une version Ultra Deluxe qui finalement sera complètement folle. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et c'est ça qui est beau. Voilà.
Oui.
Peut-être.
je sais pas. Non, mais je me dis.
Si les vacances qui arrivent, elles se profilent.
Ouais, ouais, voilà. C'est, on va pouvoir prendre un peu de repos. Mais je me dis, bon, si jamais j'ai l'occasion, je pourrais peut-être en parler sur ma chaîne. Vous en avez déjà un peu parlé sur Game Next Door. Mais voilà. Donc, si jamais vous l'avez pas fait et que ça fait quand même une heure que vous nous écoutez, alors qu'on vous a gâché tout le principe du jeu, faites-le pour vous-même.
Bah,
vous
moi, verrez qu'il y a. Moi, je peux le dire. Moi, je connaissais déjà justement les leçons du jeu. C'était quoi le projet. Et je l'ai quand même fait. Et j'ai quand même apprécié l'expérience. Je suis content d'y avoir joué parce que ça permet de prendre justement la mesure de ce petit plaisir du choix et de bien se rendre compte de ce cadrage, de tout ce qu'on a raconté dans l'épisode. Ouais, je trouve qu'on le ressent en fait en jeu.
On en avait parlé pendant la préparation. C'est vrai qu'on se pose souvent la question, tu vois, du plaisir de découvrir les jeux, les let's play, les machins, de jouer par procuration. T'as toujours une espèce de petit pourcentage de bah, si c'est toi qui as les contrôles, c'est quand même toi qui décides, donc il y a quand même ce petit truc en plus. Après, je suis complètement d'accord avec Max dans le sens
faire la démo, hein,
tu vois, il a joué 2-3 fois, il a vu une ou deux fins, ça lui suffit et le reste il va voir sur YouTube. En fait, t'avais déjà l'essence du truc.
J'ai fait la démo, ouais. J'ai fait ok, le
et
concept
la démo
est
qui
cool.
était complète en plus, ouais, ouais, il y avait déjà pas mal de choses, tu comprends déjà le principe.
Ouais,
en
ouais, c'est parce, ça, que, bon. Parce que oui, il y a une démo gratuite sur Steam si ouais. jamais vous voulez tenter, mais j'ai fait la démo, j'ai fait ok, je vois le délire et aussi j'en avais déjà entendu parler avant, je voyais un petit peu ce que c'était et du coup j'ai regardé sur YouTube parce que c'est bon, je me suis dit, en fait moi j'avais ce côté un peu, bah, je sais en fait que je vais jamais casser le jeu, j'ai pas cette relation du tiens, je vais voir un petit peu ce qu'il y a là, je sais que tout est écrit,
Max, entre nous, c'est le sage, hein, je pense qu'il faut le dire, ouais. C'est
et
voilà, la sagesse quoi. Hein,
et du coup, bah YouTube, j'ai regardé sur YouTube et c'était très bien.
La sagesse, YouTube, ok.
Et, bon. Bah, parfait.
Et,
bah,
et ça
merci.
Dure que 1h40, voilà, c'est parfait.
Merci, fin du game, l'émission qui vous dit qu'il faut jouer au jeu sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Je crois qu'on a fait le tour, ça y est, on va pouvoir prendre un petit peu de repos. On se retrouve donc dans un mois à peu près, hein. C'est le rendez-vous qu'on se donne en juillet. Il y en aura encore un en août. Vous pouvez toujours nous soutenir sur Patreon, encore une fois, hein, voilà, il n'y aura qu'un seul débit, hein, si vous voulez quand même nous soutenir, ça peut être l'occasion.
C'est vrai qu'on fonctionne par épisode, il faut le rappeler, hein, c'est un truc, vous choisissez de nous donner un petit truc par épisode, donc quand on en sort qu'un, bah, vous êtes facturé qu'une fois. Donc c'est
exactement,
plus simple.
Exactement.
Et là, en plus, on va parler d'un classique, tu vois, il faut qu'on fasse du teasing. Moi, j'ai eu un mémo hein, de l'équipe marketing
mémo,
qui nous a dit qu'il
fallait
qu'on fasse plus de teasing, voilà, mais bon, en fait, on aurait dû le faire tout à l'heure, mais voilà, bon, on va parler d'un grand jeu, un autre classique, pareil, à la première personne.
Deux épisodes un peu particuliers, voilà, ce sera un petit peu différent.
On va tester des trucs cet été, c'est ce qu'on s'est dit un peu.
Les deux vont marquer quand même, ça va être un moment charnière dans l'histoire.
C'est la fin de la saison 2, c'est le cliffhanger avant qu'on reprenne la saison 3.
On va expérimenter des trucs, hein, voilà, dans cet été, et on reviendra encore plus fort, évidemment, à la troisième saison.
Donc voilà, rejoignez-nous sur Patreon, ça c'est possible, rejoignez-nous également sur le club Discord, si vous voulez voir quels sont ces deux jeux dont on va parler. Ensuite, on annoncera quand on reprendra la saison 3. On remercie encore une fois Sœur d'édition. Le bouquin sur Full Metal Alchemist, hein, c'est celui qu'on a retenu, hein, qui nous a titillé comme ça. Il sortira en juillet, donc ça va arriver assez vite. Vous pourrez retrouver ça sur leur site. Et puis voilà, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Salut.
Ciao.